18h-20h,
votre grand journal du soir.
Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre grand journal du soir jusqu'à 20h à la une de l'actualité. Ce mardi, la famille de Cédric Chouvia, le livreur décédé en janvier dernier lors d'un contrôle routier, demande des réponses à Emmanuel Macron. C'est dans votre journal que l'on en parle, Sébastien Krebs. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
18h20, la France peut-elle connaître une seconde vague de la Covid-19? Extrêmement probable, dit le conseil scientifique. Qu'en pense le professeur Gilbert Doré de la Pitié Salpêtrière? Il est mon invité dans 20 minutes, c'est sur Europe 1, ne pas manquer. 18h30, les grandes voix avec ce soir Gérard Carrérou et Charles Villeneuve en face à face. Et puis après 19h, spécial municipal toute la semaine avec les leaders des partis avant le scrutin de dimanche. Ce soir à 19h20, je reçois le patron du groupe La République En Marche au Sénat, François Patria. Et puis à 19h30, vous avez quitté les grandes villes pour le vert pendant le confinement. Vous avez décidé d'y rester. Vos témoignages au 3921, hashtag Europe 1. Voilà pour votre programme du jour. Sous le soleil, on écoute ensemble le monde changer. Et c'est jusqu'à 20h sur Europe 1.
Il est 18h, vous écoutez Europe 1.
Il a laissé aucune chance. Il a crié j'étouffe. Et non, on y va, on continue.
Ils veulent que la police se remette en question. Les proches de Cédric Chouvia relancent le débat et demandent des réponses au gouvernement sur les techniques d'interpellation. Ce livreur de 42 ans est mort d'un arrêt cardiaque après avoir été plaqué au sol.
L'Allemagne qui reconfine un demi-million d'habitants. Une décision spectaculaire face à un foyer détecté dans le plus grand abattoir d'Europe.
En France, une étude confirme que les enfants ne sont pas si contagieux.
Les enfants peuvent être infectés, mais ne sont pas très contagieux pour leur entourage immédiat, en tout cas dans le cadre scolaire.
Dans ce journal aussi, toujours aucune trace du corps d'Estelle Mouzin. Les recherches se poursuivent dans les Ardennes, dans les propriétés de Michel Fourniret.
Barack is back. Il rejoint en tout cas Joe Biden en campagne, et c'est ce soir.
Et puis ça n'a pas loupé. Novak Djokovic, à son tour, positif au Covid, après son tournoi organisé dans les Balkans.
C'est compliqué dans un sport où il y a du contact, où ça transpire. C'est compliqué d'être dans le zéro risque.
Le regard de Cédric Pioline à suivre. La Bourse de Paris clôture en hausse d'1,3% à 5017 points.
Et avec Anissa, c'est la couleur du ciel. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Et bien demain, c'est encore une belle journée qui se profile. Quelques nuages en altitude, mais surtout des températures qui continuent de grimper. Le temps sera très lourd. Demain, je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Ils veulent une réponse solennelle du président Macron. Une famille remet à la une ce soir le débat sur les techniques d'interpellation et les accusations de violence policière. La famille de Cédric Chouvia, mort à 42 ans, victime d'un malaise cardiaque après avoir été plaqué au sol par des policiers. C'était début janvier à Paris. J'étouffe, disait-il, selon une expertise révélée par Mediapart et Le Monde. Bonsoir Guillaume Bier.
Bonsoir.
Plusieurs de ses proches ont pris la parole aujourd'hui pour demander des réponses fortes et immédiates.
Oui, dans un mélange de colère, désarroi et tristesse, les enfants, la veuve, la sœur, les parents de Cédric Chouvia ont tenu à s'exprimer, notamment son père, très ému après avoir maintenant découvert les derniers mots de son fils, répétant qu'il étouffait.
Quand vous entendez cette fois votre fils, c'est dur. Et on n'y a pas laissé de chance, quoi. En gros, c'est crève, salopard, parce que ta plaque était sale. Vous voyez ? Donc on n'y a laissé aucune chance. Vous savez, dimanche, c'était quoi, dimanche ? C'était la fête des pères. Moi, il m'a manqué un coup de fil. C'est de mon fils. Il ne m'a pas appelé dimanche.
Les proches de Cédric Chouvia attendent que les quatre policiers impliqués soient mis en examen. Ils ne comprennent pas que ces fonctionnaires ne soient toujours pas suspendus. Quant aux avocats de la famille, ils dénoncent des violences policières permanentes, un déni, un mépris des institutions, tout en saluant le travail des juges. Maître William Bourdon lui pointe particulièrement l'attitude des policiers.
Au lieu de s'arrêter, ils continuent. Et pourquoi ils continuent ? Parce qu'ils sont dans l'obsession de l'efficacité, dans l'obsession que l'immobilisation soit absolument parfaite et acquise. Et on voit bien que dans cette technique-là, il y a une perversion. Et cette perversion, c'est qu'elle conduit à s'acharner sur un homme au moment où il faudrait s'abstenir.
Alors la famille de Cédric Chouvia lance un appel au président de la République, lui demandant de s'exprimer et d'interdire aux policiers de pratiquer la clé d'étranglement et le plaquage ventral.
Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1.
Et les policiers de leur côté affirment ne pas l'avoir répété lorsqu'il s'est plaint d'étouffer. Lorsqu'il s'est plaint. En tout cas, c'est ce que dit un de leurs avocats, notamment Thibault de Montréal.
Lorsque les policiers en garde à vue ont été confrontés à ces propos, ils ont tous été
à la fois surpris et effondré. Effondré parce que, bien sûr, s'ils les avaient entendus, ces propos, ils auraient aussitôt arrêté ce qu'ils étaient en train de faire. En réalité, ces propos, ils ne les ont pas entendus, puisque c'était un casque micro, donc avec un micro tout près de la bouche, qui a donc amplifié ces propos. Par ailleurs, M. Chouviat était en train de lutter, donc il y avait un bruit de lutte. Et enfin, tout ça s'est déroulé à quelques dizaines de centimètres de la circulation, une circulation abondante qui faisait aussi beaucoup de bruit. Ce qui est extrêmement important à souligner, c'est que si les enquêteurs avaient eu le moindre doute sur le fait que tel ou tel des policiers avait menti sur ce point qui est un point important, il y avait une manière procédurale très simple qui consiste à déférer les gens à la fin de leur garde à vue. Or, ce choix n'a pas été celui des juges d'instruction. C'est donc que, à ce stade, il est probable que le juge d'instruction ait considéré comme les policiers qu'il n'ait pas pu entendre les propos de M. Chouviat.
L'avocat des policiers Thibault de Montbrial avec Alain Acco.
Voilà, cette affaire, suite à l'affaire Traoré, le pouvoir là-dedans, le pouvoir de l'État de plus en plus remis en question par la population. On y revient notamment avec les grandes voix à partir de 18h30.
Et au même moment, on apprend ce soir que dans une toute autre affaire, 4 CRS sont mis en examen pour violence volontaire. Les faits remontent à décembre 2018, en marge du mouvement des Gilets jaunes. Des manifestants qui s'étaient réfugiés dans un fast-food proche des Champs-Élysées avait été violemment frappé à coups de matraque.
Enfin, dernier dossier cette fois à Strasbourg. Un policier a aujourd'hui été condamné à 18 mois de prison avec sursis, là aussi pour des coups de matraque sur une manifestante gilet jaune de 62 ans.
L'Allemagne sous le choc, c'est le deuxième grand titre ce soir. Deux cantons de Rhénanie ont été forcés de revenir au confinement. Décision spectaculaire après que 1500 employés d'un abattoir ont été testés positifs. Hélène Kohl, vous êtes en Allemagne. C'est un retour en arrière terrible ce soir pour un demi-million d'habitants.
Oui, même si dans les faits, avec la fermeture dès la semaine dernière des écoles et surtout de l'abattoir, le principal employeur de la région était déjà en situation d'urgence sanitaire. Et dès jeudi, le canton voisin sera lui aussi concerné pour mettre sous cloche une zone la plus large possible et éviter ainsi la propagation du virus au reste du Land, la Rhénanie, un bassin de population très dense avec plus de 20 millions d'habitants. Aujourd'hui, on a donc refermé les bars, les salles de sport, les piscines, les cinémas dans ce canton et interdit de se retrouver entre amis ou avec la famille jusqu'au 30 juin. À l'heure actuelle, il n'y a aucune autre contamination en dehors des salariés de l'abattoir et de leur famille. Ce sont des saisonniers roumains et bulgares parqués à l'écart de la commune dans des logements exigus, à l'hygiène précaire. Cela fait des années que les syndicats allemands dénoncent leurs conditions de travail et de vie. Une filière de la viande et qui est vraiment montrée du doigt ici en Allemagne, car depuis la fin avril, c'est le cinquième foyer d'infection qui se développe dans un abattoir en Allemagne. Mais la politique de la région est aussi épinglée, car il faut savoir que la Rhénanie est le Land qui a déconfiné ici le plus rapidement, contre l'avis d'Angela Merkel et au mépris des recommandations des scientifiques.
Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en Allemagne. Les Anglais, eux, ont un peu plus le sourire. Ils vont pouvoir retourner au pub à partir du 4 juillet. Nouvelle phase de déconfinement, redémarrage de l'hôtellerie, restauration, du tourisme et aussi des coiffeurs.
En France, c'est la situation en Guyane en fait qui préoccupe. De nouveaux moyens ont été envoyés. Nous serons sur place dans le journal de 19h. Et avant cela, je recevrai à 18h20, dans 13 minutes exactement, le professeur Gilbert Deray de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Est-ce qu'on risque un rebond de l'épidémie à l'automne? Ces réponses, c'est à suivre sur Europe 1.
En tout cas, il y a une question qui semble de plus en plus tranchée alors que les écoles et collèges se remplissent à nouveau. Une étude confirme que les enfants ne sont pas de dangereuses bombes virales. Étude menée par le professeur Arnaud Fontanet sur la base de données recueillies dans l'Oise, l'un des tout premiers foyers. Victor Delande.
Tous les enfants des 6 écoles primaires de Crépy-en-Valois ont été testés, ainsi que leur entourage, les parents, les frères et sœurs. Au total, 139 personnes ont bien contracté le virus sur 1340, soit un tout petit peu plus de 10% du panel. Des enfants infectés qui n'ont d'ailleurs pas contaminé leurs camarades de classe. Pour Arnaud Fontanet, qui a mené cette étude pour l'Institut Pasteur, ces résultats sont très rassurants.
On a quand même un faisceau d'arguments aujourd'hui pour dire que les enfants peuvent être infectés, mais ne sont pas très contagieux pour leur entourage immédiat, en tout cas dans le cadre scolaire. L'autre élément intéressant de cette étude, c'est que les enfants ont fait des formes mineures de la maladie quand ils ont été infectés. À peu près la moitié d'entre eux n'avaient aucun symptôme.
Et pour l'autre moitié, quelques symptômes légers, diarrhée et un peu de fatigue. En revanche, dans les familles où les enfants sont tombés malades, 61% des parents ont également attrapé le coronavirus. Pour les chercheurs de l'Institut Pasteur, ce n'est donc pas l'école, le lieu de contamination, mais bien le foyer familial. Et ils vont plus loin dans leurs hypothèses. Ce sont bien les parents qui ont contaminé contaminer leurs enfants dans la plupart des cas, et non pas l'inverse.
Victor Delande du service Société d'Europe 1.
Mais attention, ces résultats ne concernent pas les lycéens qui, eux, sont autant contaminés que les adultes. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que les lycées n'ont pas rouvert. Hein.
18h09 sur Europe 1, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Venons-en maintenant aux recherches qui se poursuivent dans les Ardennes pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin. On est 17 ans après sa disparition.
Les fouilles n'ont toujours pas abouti ce soir dans les anciennes propriétés de Michel Fourniret. Après une maison, hier, les enquêteurs se sont déplacés à une quinzaine de kilomètres de là, au château du Sautou à Donchéry. Lionel Gougelot, vous êtes sur place. C'est un domaine de 15 hectares qu'il faut passer au peigne fin.
Oui, effectivement, 15 hectares de parcs, de bois, de forêts et d'étangs qui entourent une imposante demeure bourgeoise du 19e siècle. Un domaine acheté par Fourniret, un peu plus d'un million de francs à l'époque, grâce au butin de pièces et de lingots d'or qu'il avait volé à l'un des membres du gang des Postiches. Vous savez, cette célèbre bande de braqueurs des années 80. Et c'est ici, en 2004, que les deux premières victimes du tueur en série avaient été retrouvées, enterrées à plus de 3 mètres de profondeur. C'est donc dans ce décor que les enquêteurs et les experts de la gendarmerie ont à nouveau déployé leur dispositif de recherche pour sonder le terrain, survoler le domaine avec un drone. À cela s'ajoutent des plongeurs de la brigade fluviale qui explorent les points d'eau. Des recherches menées sur la base de ce que l'on sait des habitudes de Michel Fourniret, selon Didier Seban, l'avocat du papa d'Estelle.
On sait comment Michel Fourniret enterrait ses victimes. On sait qu'il préférait les puits, les points d'eau. Donc on va un peu plus loin, un peu plus profond. C'est un lieu suffisamment isolé, qu'il connaissait parfaitement, où il a déjà enterré 2 victimes. Ça n'est pas rien. Et donc on pense que ce domaine n'a pas livré tous ses secrets. Les moyens sont mis pour découvrir le corps d'Estelle ou peut-être d'autres victimes oubliées de Michel Fourniret.
Le problème aujourd'hui, c'est qu'à la différence de 2004, Michel Fourniret n'est pas là pour aiguiller les enquêteurs. Et d'ailleurs, quand Estelle Mouzin a été enlevée, il n'était plus depuis longtemps propriétaire du château du Sautou.
Lionel Gougelot, envoyé spécial d'Europe 1 dans les Ardennes. Le clan Fillon veut retourner au tribunal. Les avocats de l'ancien Premier ministre demandent la reprise du procès alors que le jugement est attendu lundi. Dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse, cette demande qui fait suite aux déclarations de l'ancienne chef du parquet financier qui évoquait la semaine dernière des pressions venues de sa hiérarchie.
Europe 1. Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Et à suivre dans un instant, Barack Obama en campagne ce soir aux États-Unis pour son ancien vice-président Joe Biden.
Et puis ça n'a pas loupé après le fiasco du tournoi de tennis organisé par Djokovic. Le numéro 1 mondial est à son tour positif au Covid.
Europe 1. 18h13 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
L'épidémie aux États-Unis continue d'inquiéter, en particulier dans les États du Sud. Et Donald Trump a décidé de serrer la vis en gelant l'attribution de nombreux visas de travail.
Oui, avec ce message réservé, les emplois aux Américains. On est en pleine campagne présidentielle. Et son adversaire, Joe Biden, lui, sort son plus gros atout ce soir. Barack Obama, dont il fut le vice-président. Xavier Yvon, on vous retrouve à New York. C'est la première fois qu'on va le voir aux côtés du candidat démocrate.
Oui, alors aux côtés, en tout cas sur l'écran au moins, parce que c'est une rencontre virtuelle, une réunion de levée de fonds en ligne. Pour y assister, il faut payer une participation, il n'y a pas de montant minimum, mais le nom de Barack Obama, évidemment, est un aimant à donation. 120 000 personnes inscrites, c'est beaucoup pour un événement à suivre en vidéo. 4 millions de dollars collectés pour l'instant. Il faut savoir que Joe Biden est dans une course au dollar en ce moment pour rattraper son retard énorme sur Donald Trump, qui a amassé lui ces 4 dernières années un trésor de guerre monumental. Barack Obama vient donc donner un coup de main à son vieil ami et ancien vice-président. On nous annonce qu'il va parler, je cite, de ce moment turbulent que traverse l'Amérique. Pour l'ancien président, c'est un retour sur le devant de la scène politique. Il a refait surface progressivement depuis qu'il a annoncé son soutien à Joe Biden il y a 3 mois, notamment en tweetant de plus en plus. Il va s'engager aussi davantage dans la campagne, notamment après l'été, dans la dernière ligne droite. Et Barack Obama est donc redevenu une cible récurrente pour Donald Trump, qu'il a accusé hier de haute trahison, sans qu'on sache très bien pourquoi. Le président sortant veut faire de son successeur l'épouvantail de la campagne.
Xavier Yvon en direct des États-Unis et dans ce contexte de tension raciale, on retient cette image. Hier soir, des manifestants ont tenté de déboulonner une statue installée juste devant la Maison-Blanche, statue du président Andrew Jackson, président au 19e siècle et figure controversée pour son passé esclavagiste.
Et l'épidémie de Covid qui s'étend aussi dans le monde du tennis. Cette fois, c'est le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, qui est positif.
Et on vous racontait dès hier soir ce tournoi que le Serbe a organisé dans les Balkans avec bien peu de précautions. Tournoi qui a tourné court lorsque plusieurs joueurs ont été testés positif. Et donc, on apprend aujourd'hui, Corinne Boulou, que Novak Djokovic lui-même est rentré chez lui avec le virus.
Oui, en effet, le numéro 1 mondial a annoncé lui-même dans un communiqué avoir été contaminé, tout comme son épouse Yelena d'ailleurs. Novak Djokovic précise ne ressentir aucun symptôme et indique qu'il subira un nouveau test dans 5 jours. Sa tournée destinée à aider les joueurs de la région des Balkans en difficulté a viré au fiasco. La faute à un manque évident de précautions sanitaires, non imposées, il faut le signaler, par les directives locales. Alors, ce couac est-il de nature à remettre en cause le calendrier de reprise des tournois officiels ? Élément de réponse avec notre consultant Cédric Pioline.
Du fait que ça soit pas mal en amont, je dirais, de la reprise du circuit, ça va permettre d'abord aux joueurs touchés de se soigner et puis aux organisateurs d'affiner encore plus les précautions sanitaires qu'il faut prendre. Maintenant, c'est vrai que c'est compliqué dans un sport où il y a du contact, où ça transpire, où il y a du public, normalement, c'est compliqué d'être dans le zéro risque.
Alors Novak Djokovic, qui trouvait les protocoles sanitaires un peu trop stricts à l'US Open, va devoir sans doute réviser son jugement à la lumière de cette tempête qu'il traverse.
Merci Corinne Boulou du service des sports d'Europe 1. Et puis pour ce qui est du foot, la Ligue 1 se jouera bien à 20. La décision a été confirmée aujourd'hui par l'Assemblée Générale qui réunit tous les clubs et qui a relégué du même coup Amiens et Toulouse en Ligue 2.
Merci Sébastien, à tout à l'heure, 18h30, Anissa. Une très belle journée encore demain.
Oui, effectivement, la même qu'aujourd'hui, avec peut-être quelques averses orageuses sur les Pyrénées et les Alpes. Demain, les températures comptaient 11 à 22 degrés dès demain matin, puis dans l'après-midi, 27 à Nice, 29 à Marseille et Biarritz, 30 à Strasbourg, 34 pour Paris et 36 à Mont-de-Marsan, la maximale.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir avec votre invité dans un instant, Nathalie Lévy.
Et cette question, la France risque-t-elle une seconde vague de la Covid-19? Extrêmement probable, dit le conseil scientifique aujourd'hui même. Qu'en pense le professeur Gilbert Deray de la Pitié Salpêtrière? Je lui pose la question dans 2 minutes et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
18h20 sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir avec votre invité, Nathalie Lévy.
Oui, bonsoir professeur Deray, merci d'être à mon micro ce soir sur Europe 1.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes chef du service néphrologie à l'hôpital de la Salpêtrière, de la Pitié-Salpêtrière. Alors on l'a vu, l'Allemagne, là, aujourd'hui même, alors que la France allège ses protocoles sanitaires, c'est une partie du pays pour être exact, et aussi une partie du Portugal qui est reconfinée. La pandémie est préoccupante en Guyane, dans le monde, au Brésil, au Mexique, on a encore un certain nombre de pays sur la liste. L'OMS met en garde sur la phase dangereuse dans laquelle le monde est entré. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ?
Je crois qu'en fait, pour comprendre ce qu'il faut faire à l'échelon local, il faut toujours regarder de façon globale et poser les faits. Les faits sont les suivants. Premièrement, la pandémie au niveau du monde est extrêmement active, elle n'a jamais été aussi active dans le monde, ça c'est clair. La deuxième chose, c'est qu'on l'a bien affaibli, ça c'est sûr, avec le confinement, ça marche, mais il est là. Et il est là partout en Europe. Dans tous les pays d'ailleurs où on a gagné, il est encore là. La troisième chose, c'est qu'on ne le connaît pas si bien que ça. Ça fait 4 mois seulement qu'on le connaît. On sait qu'il est hautement contagieux. Et on sait qu'il faut respecter des gestes barrières et mettre des masques. Et enfin, on sait qu'on n'a pas d'immunité collective. Donc dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Un, qu'on a gagné sur l'épidémie de départ. Deux, ouais, qu'il peut clairement récidiver. Et que trois, il faut faire attention et être prêt. Et être prêt, c'est respecter des gestes barrières, c'est mettre des masques, c'est tester, c'est isolé. Si on ne fait pas ça, le risque de reprise, il est majeur.
Est-ce que vous êtes en train de dire, professeur Deray, que dans la suite du déconfinement, avec cette liberté retrouvée, on s'est peut-être un peu trop précipité à l'extérieur, on s'est peut-être trop précipité un peu les uns vers les autres, et on a finalement oublié toutes les recommandations et tous les gestes barrières?
Ah bah c'est une évidence. On nous avait dit qu'il y aurait un monde d'après, c'est le monde d'avant-hier en fait. Moi j'ai été surpris, on nous disait on allait plus se faire la bise si facilement, etc. On s'est tous jetés dans les bras les uns des autres, et on s'est fait plus de bise qu'avant, parce que comme on était frustrés, on a voulu en faire encore un peu plus. Évidemment, l'archétype, c'est la fête de la musique. La fête de la musique,
c'est une sorte de Saint-Martin, entre autres.
C'est une sorte de message contradictoire donné avec des personnes qui nous disent on va faire progressivement, mais on met des millions de personnes dehors.
Donc là, c'était un comportement dangereux, précisément.
Ah oui, c'est très clair, et même irresponsable. Je vais aller plus
loin.
Mais
les manifestations qu'on a eues une semaine auparavant.
Les manifestations, je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre. Je dirais que dans les manifestations, premièrement, il y avait un cri social, sociétal, même si la fête de la musique, c'est quand même important, je l'adore. Je dirais également qu'il y avait plus de masques et qu'il y avait moins de monde. Mais des millions de personnes qui dansent ensemble, qui chantent ensemble, qui crient ensemble, donc qui s'envoient des postillons toute la journée, c'est pas fun, c'est pas sexy, mais c'est la réalité, bah, c'est du virus qui circule.
Donc vous nous dites, si j'essaie de bien comprendre, le déconfinement, on l'a réussi, plutôt, ouais. Mais la suite, en fait, du déconfinement, c'est une forme d'échec.
Ah, on est à côté de la plaque, complètement. Le déconfinement doit être progressif.
Mais on alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'on s'est habitué à cette liberté retrouvée.
Ah non, non, il faut qu'on garde notre liberté, mais si on ne veut pas replonger dans le confinement, ce qui serait une catastrophe invraisemblable, il faut impérativement qu'on comprenne qu'il faut des gestes barrières, qu'il faut un peu de distance, et qu'on ne peut pas comme ça se rejeter dans la vie d'avant de la même façon.
Les bars, alors, les restaurants, par exemple, ont ouvert trop vite?
Non, ça c'est autre chose. C'est-à-dire le sanitaire ne peut pas tout emporter. Le médecin ne doit pas tout gouverner. Donc il y a une dimension qui est politique, il y a une dimension qui est sociétale, une dimension qui est économique, et il y en a une qui est sanitaire. On ne pouvait pas laisser ces millions de personnes sombrer sur le plan économique, donc on a pris des mesures sages, avec des masques, avec des distances. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être les uns sur les autres, même si c'est pour faire la fête.
Mais quand même, est-ce que ce n'est pas politique, justement, aujourd'hui, de rappeler à l'ordre, nous, notre responsabilité individuelle?
Alors, il y a les deux. Ça fait des mois qu'on dit, qu'ils disent, que tout le monde dit, dans les médias et ailleurs, c'est bien, vous allez prendre votre responsabilité, et l'avenir dépend de nous, chaque individu. C'est vrai d'ailleurs, parce que quoi que dise le politique, il n'aurait pas pu empêcher la fête de la musique. Et d'ailleurs, c'est probablement pour ça qu'il ne l'a pas empêché, parce que je ne vois pas comment la police aurait pu empêcher cette fête de la musique. Mais dire « faites la fête de la musique et mettez des masques », c'est pas bien, c'est pas raisonnable.
C'est
on savait très bien qu'il y aurait pas, c'est pas cohérent, c'est ce qu'on appelle les messages, les injonctions contradictoires. Donc, il faut que nos politiques disent effectivement ce qu'il serait bien de faire. Puis après, il faut qu'on prenne tous nos responsabilités, parce qu'elle est exponentielle. Hein.
Bah oui.
On engage beaucoup de monde.
Alors, professeur Doré, quid? Parce qu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé nous dit qu'il a fallu plus de 3 mois pour que le premier million de cas soit signalé. Le dernier million de cas a été signalé en seulement 8 jours. Ça fait froid dans le dos. On court vers une deuxième vague à la rentrée?
Alors là encore, les prédictions sont impossibles, mais ce qu'il faut clairement dire, c'est qu'elle est possible. Ce qu'il faut clairement dire, c'est que si on ne prend pas des précautions, elle va être aussi haute que l'autre. Et là, on va cracher. Que par contre, si elle survient, ce qui est tout à fait possible, et si on fait bien, on va l'atténuer, c'est ça l'objectif. Pour ce qui est du nombre de cas, on va quand même souligner quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de pays à l'heure actuelle qui sont en totale désorganisation.
Lesquels,
Amérique
par
du Sud, l'Inde, malheureusement c'est un désastre, c'est à la fois un désastre dans l'organisation, un désastre sanitaire, pour des raisons de capacité sanitaire, pour des raisons politiques. Hein. On sait tous le jeu qui est joué au Brésil par Bolsonaro. Et donc, ça multiplie probablement le nombre de cas. Il est clair qu'en Europe, même si on a réagi pour certains pays un peu tard, dont nous, on a quand même confiné. Quand vous ne confinez pas correctement dans des pays justement comme le Brésil, c'est un désastre.
Quand on voit l'Allemagne là, qui confine, alors c'est une portion, hein, simplement, c'est Lisbonne pareil, enfin le Portugal pareil, on peut imaginer ça alors? Peut-être à la rentrée pour la France, pour une partie de l'Europe?
Je ne sais pas quand, ce qui est sûr c'est que, alors pour l'Allemagne c'est particulier parce que c'est un cluster de 1500 dans un abattoir, et que donc on avait l'endroit idéal et ils ont réagi
très vite, action-réaction, absolument.
Mais c'est ça qu'il faut faire, parce qu'ils ont confiné 40 000 personnes au lieu d'en confiner 15 millions demain. Pour le Portugal, ça m'interpelle encore plus, parce que c'est un pays qui a très très bien géré la crise, qui a été relativement épargné. Et vous voyez, même au Portugal, il n'y en avait pas beaucoup, eh bien on voit que si on lève la garde, il revient.
Comment l'expliquer alors, puisqu'ils ont effectivement, ils ont été extrêmement vigilants au Portugal?
Eh bien parce que tout simplement, ce virus, il n'est pas gentil du tout, qu'il est méchant, qu'il est hautement contagieux. Et il y a aussi une autre raison qu'on va souligner, c'est qu'on dépiste plus qu'avant, on détecte plus qu'avant. Donc c'est sans doute des clusters qu'on n'aurait pas dépistés il y a 4 mois. Et c'est bien et c'est qu'on les dépiste maintenant. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait
c'est ce qu'on a vu en Chine déjà, il y a quelques semaines.
Voilà,
on en a beaucoup parlé
Chine,
parce que les chiffres sont montés
c'est
au regard
différent.
Des...
C'est une démonstration politique de force. Mais le Portugal, l'Allemagne et même nous maintenant, on dépiste beaucoup et c'est bien, ce qui nous permet d'isoler. Néanmoins, il est là.
Professeur Doré, il est là. On ne pourra pas reconfiner parce qu'on a vu la crise économique, on a vu les conséquences économiques que ça peut nous amener. On comptait sur la chaleur, sur les 30 degrés. On voit bien que ça peut avoir un effet, mais qui n'est pas massif, clairement pas.
Alors ce qu'on sait, c'est que comme toujours en médecine, on peut dire le côté d'une pièce et pas l'autre. Ce qu'on sait, c'est que même dans les pays chauds, il y a du virus. L'Iran, l'Irak, la Syrie, Israël, il y en a plein dans le monde, le Pakistan, le Bangladesh, et pas des petites, hein. Dans les pays que je viens de citer hors d'Israël, c'est une catastrophe. Ouais. Donc le 30 degrés, le 35 degrés, le 40 degrés ne le tue pas. Ce qu'il tue, c'est 60 degrés dans la machine ou sous le fer à repasser. Est-ce que la température élevée permet d'atténuer la virulence du virus? Peut-être.
Peut-être,
mais ça je ne le sais pas.
Une dernière question au professeur. comment procéder si ce n'est pas un reconfinement massif, puisqu'on ne pourra pas se le permettre à l'automne, admettons. Qu'est-ce qu'on devra faire ?
Eh bien, il faut impérativement qu'on dépiste vite et qu'on confine soit un individu, soit une famille, soit une ville, soit un quartier, avant de devoir confiner le pays. Si on ne dépiste pas les gens quand ils sont très tôt, et les contacts, parce que le contact est contagieux plusieurs jours avant d'avoir les signes. Et puis vous savez qu'il y a 40% d'asymptomatiques. Donc si donc on ne dépiste pas par tous les moyens, et pour l'instant moi je ne suis pas sûr qu'on soit armé pour dépister par tous les moyens, je ne le crois pas d'ailleurs. Et eh bien si on ne dépiste pas les malades, les contacts, ils ne sont pas isolés, ça redémarrera.
Vous êtes pessimiste, professeur Deray ?
Non, par nature, je ne suis absolument pas pessimiste. Donc on continue le combat, responsabilité individuelle, on va y arriver.
Merci à vous en tout cas d'être venu nous faire un point complet à ce stade sur l'épidémie. Merci beaucoup Gilbert Deray, mon invité ce soir.
Merci
sur Europe 1.
Merci.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
Les grandes voix qui arrivent là, qui sont là dans ce studio, elles vous ont écouté, professeur Deray, elles vont s'installer et l'info c'est Sébastien Krebs. Merci.
Europe 1.
18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy.
Sébastien Krebs, le rappel des titres.
4 CRS mis en examen pour des violences en marge du mouvement des Gilets jaunes en décembre 2018. Ils sont accusés d'avoir matraqué des manifestants qui s'étaient réfugiés dans un fast-food près des Champs-Élysées. La famille de Cédric Chouviat en appelle à Emmanuel Macron et demande une réponse rapide sur les techniques d'interpellation. Ce livreur était mort après un plaquage au sol au mois de janvier. L'heure des réquisitions au procès du scandale du Mediator. Le parquet pointe les manipulations et dissimulation du laboratoire Servier qui a maintenu coûte que coûte ce médicament sur le marché. Le réquisitoire s'achèvera demain. Un accord chez Air France, le syndicat majoritaire, le SNPL, accepte les conditions du départ volontaire de 400 pilotes. Un accord de rupture conventionnelle collective va être signé. L'Allemagne reconfine 500 000 d'habitants en Rhénanie. Fermeture de nombreux lieux publics, sortie limitée, et cela en raison d'un gros foyer apparu dans un abattoir. En France, Emmanuel Macron consulte Nicolas Sarkozy. L'ancien président était à l'Élysée cet après-midi pour échanger sur l'après-crise. François Hollande suivra vendredi. Et puis, cet échec retentissant de l'application Stop Covid, elle n'a servi en 3 semaines qu'à signaler 14 cas de contamination. Un peu moins de 2 millions de personnes l'ont téléchargée, mais un quart d'entre eux l'ont ensuite désinstallée.
Merci Sébastien Krebs. Vous revenez à 19h avec un journal complet. Anissa, dans le ciel, du soleil et de la chaleur.
Oui, effectivement, c'est une journée très estivale encore. Demain, quasiment la même qu'aujourd'hui. Ce qui va changer, c'est la présence d'un peu plus de nuages en altitude sur les Alpes et les Pyrénées. Des nuages qui pourront provoquer des averses qui pourront par endroits être orageuse. Voilà, c'est tout ce qui va se passer demain avec quelques entrées maritimes sur le Roussillon, mais c'est tout. Et partout ailleurs, c'est un ciel bleu, beaucoup de soleil et surtout des températures en hausse. Demain matin, au lever du jour, nous aurons déjà 11 degrés à Beauvais, 12 à Caen, 14 à Cherbourg et Manosque, 15 à Belfort et Clermont-Ferrand, 18 à La Rochelle, Lyon et Paris et 21 du côté de la Côte d'Azur. Et puis dans l'après-midi, ça grimpe encore avec 26 à 36 degrés, 26 pour Dunkerque, 36 la maximale pour Mont-de-Marsan.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec les grandes voix qui sont là autour de vous jusqu'à 19h. Nathalie Lévy, ce soir Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bienvenue évidemment dans ce studio jusqu'à 19h. On va revenir sur les dernières informations du jour et analyser un petit peu ce qui se joue aujourd'hui, une sorte d'érosion du pouvoir de l'État. Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, que se passe-t-il quand on voit les développements dans l'affaire Chouviat, quand on voit aussi les développements autour de cette fresque devant la préfecture de Bobigny, il y a eu cette manifestation. On voit bien qu'il y a des foyers de toutes parts aujourd'hui qui jaillissent et qui s'élèvent contre l'État.
Mais il y a de plus en plus, si vous voulez, une accumulation de faits divers dont l'exploitation est éminemment politique et qui donne l'impression qu'on est en train de changer de mode de pensée. Le rapport à la société évolue avec une montée de l'intolérance et ce que le directeur général de l'IFOP, Jérôme Fourquet, appelle à juste raison l'archipel français, c'est-à-dire une série de groupes sociaux qui n'ont plus les mêmes valeurs ni les mêmes intérêts. La police, la justice, les politiques, la fonction présidentielle sont interpellés. Tous sont remis en cause. L'affaire Traoré est en train de cristalliser l'idée d'un affrontement entre les races, entre les ethnies. La fresque de Stein, dont on va parler avec Gérard, est dans la même lignée. Les enfants qui débaptisent leur lycée Colbert à Thionville. L'affaire Chouviat, aujourd'hui, dans les termes où elle est présentée par la famille de la victime et leurs avocats établis un parallèle avec l'affaire George Floyd aux États-Unis. Donc, si vous voulez, quand on prend les affaires une par une, c'est ce que nous allons faire, on verra qu'il y a, de toute façon,
une forme de défiance,
une politisation de toutes ces affaires.
Avec une forme de défiance qui, du coup, se calque sur ces affaires. Et évidemment, Gérard Carrérou nous montre qu'il y a la montée des populismes et puis cette érosion qui ne fait que grandir. Que s'accentuer.
Je ne sais pas si vous êtes frappé comme moi, mais je crois quand même que c'était assez étonnant de voir l'accélération en quelques jours d'un certain nombre de phénomènes, d'affaires.
Oui, une accumulation.
Ils vont tous dans le même sens. Et quel est ce sens? Ce sens, c'est de mettre en cause, par des voies diverses et variées, de mettre en cause les forces de l'ordre du pays. Parce qu'il s'agit aussi bien, il y a des cas où il s'agit maintenant de policiers, des cas où il s'agit de gendarmes, et maintenant des cas où il s'agit de CRS, puisque 4 CRS ont été mis en examen cet après-midi dans l'affaire du McDonald's pour la manifestation des Gilets jaunes du 1er janvier, ou du 1er décembre, d'il y a un an et demi. Donc, alors, accélération des phénomènes, je ne sais pas si c'est tout à fait l'effet du hasard. Si on a cette accélération et cette coagulation des phénomènes. En tout cas, je les constate. Et il y a une première chose qui me frappe et qui, à mon avis, est démoniaque, c'est que l'amalgame entre la situation des États-Unis d'Amérique et de la situation française, amalgame qui a été démenti par tous les experts qui ont dit il y a des choses qui ne sont pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même situation. Eh bien, cet amalgame, poussé par des minorités agissantes, comme les amis de Madame Traoré.
La sœur de Madame Traoré.
Cet amalgame, malheureusement, il est réussi. C'est-à-dire qu'il est entré dans les têtes. Et il est quelque part, il est entré dans l'image, quand on a vu ériger à Stein cette fresque, où on voit côte à côte, comme si c'était les deux frères jumeaux,
contre le racisme et les violences policières.
Et en fait, on fait cette association.
Et voilà.
Celui de Traoré
et celui de George Floyd.
Et celui de George Floyd. Donc l'amalgame est réussi. Alors après l'amalgame, il y a un autre phénomène, c'est de savoir si c'est le rôle des familles. Tu l'as esquissé. Il y a un fait nouveau. On voyait en général, souvent, les avocats discuter, quand il s'agit de cas de violence ou autre, c'était souvent les avocats. Là, on a une implication extrêmement importante.
Ah oui, écoutez,
ce matin, j'ai regardé la famille Chouvia faire sa déposition. On a entendu le père, on a entendu la mère, on a entendu la compagne.
Bien sûr, mais
et fille. Non,
mais on a eu quand même des faits. On a eu quand même des faits, des éléments dans ce dossier qui sont nature à faire réagir.
Je ne critique pas. Non. Je pense qu'une famille qui a un véritable chagrin a le droit de s'exprimer. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est un phénomène d'opinion nouveau que de voir, parce que ça reste quelque chose, quand on voit ces 5 personnes qui parlent au nom de cette famille Chouvia, ou de la même manière qu'il y a un impact, quand on voit la sœur
d'Adama Traoré prendre la main dans cette manifestation.
C'est un fait d'opinion extrêmement important, parce que les gens sont directement emmenés en contact.
On se redit ça la suite dans une toute petite seconde. Charles Villeneuve, je vous donne la parole juste après. On revient sur évidemment toutes ces affaires du moment qui commencent à faire grand bruit et à faire réagir. À tout de suite.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
On revient évidemment sur l'affaire Cédric Chouvia, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou. Charles, parce que on parle des ramifications aujourd'hui, des formes de récupération qu'il peut y avoir d'une affaire outre-Atlantique en France, et puis aussi de la concordance des dates, peu importe. Toujours est-il que dans le cas de l'affaire Cédric Chouvia, on est encore quand même sur une affaire totalement singulière.
Et différente, si vous voulez, de l'affaire Traoré, différente de la fresque, évidemment, de Stein en Seine-Saint-Denis, etc. Mais la démonstration qui a été faite ce matin par les avocats de la famille, c'est évidemment l'enregistrement capté par le micro intérieur du casque, où le livreur répète 7 fois qu'il étouffe, sous le poids d'un policier qui l'a plaqué au sol et immobilisé par une clé au cou.
C'est ça.
Alors il est bien évident, si vous voulez, que indéniablement, la remise en question de la technique du plaquage ventral au sol et de la clé au cou,
d'étranglement,
sortent, si vous voulez, très affaiblis de cette affaire. Je crois que les policiers en conviennent, sauf qu'il faut leur donner un autre moyen et un autre exercice, en quelque sorte, pour neutraliser, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que le livreur Chouvia, ça ne méritait pas, évidemment, le sort qu'il a eu, mais il n'empêche qu'il a copieusement insulté en permanence, c'est la raison pour laquelle on va le neutraliser, les policiers.
Sauf que les policiers n'ont pas été suspendus dans cette affaire, c'est ce qui crée aussi telle émotion.
Le juge d'instruction, parce qui a placé en garde à vue, d'abord par l'inspection générale des services, ensuite déféré devant le juge au parquet, puis devant le juge d'instruction, il a cru, en tout cas, en la sincérité des quatre policiers qui n'ont pas
pu entendre.
Et ça, je crois que l'avocat Thierry de Montbrial, que vous avez diffusé tout à l'heure dans le journal, l'a longuement expliqué, le bruit ambiant et le fait que c'est un son intérieur au casque. Mais il n'empêche que, si vous voulez, la comparaison qui est faite, délibérée, avec la violence similaire à celle de la police américaine, évidemment, le mot j'étouffe par rapport à ce qui est arrivé à
George Floyd.
Voilà,
évidemment.
Et comparable sur ce plan, puisque tous les deux meurent d'asphyxie.
Oui, et puis ce qui est comparable aussi, Gérard Carrérou, c'est aussi, quand même, une fois encore, les policiers dans cette affaire Chouvia n'ont pas été suspendus, et c'est ce qui génère aussi beaucoup d'émotions, et c'est pour ça que la famille de Cédric Chouvia en appelle aujourd'hui directement au président Macron.
Mais bien sûr, mais la famille, je vous dis, la famille, elle était dans son chagrin, et elle a exprimé son chagrin. Je ne lui reproche pas. Je reprocherais plutôt, par contre, à un des avocats, en tout cas, tu as parlé de maître William Bourdon, qui a fait lui un discours très politique, mais on peut parler aussi de maître Ari Halimi, qui lui, dans son discours après les membres de la famille, a évoqué les personnes noires, je le cite, les personnes noires ou arabes interpellées, on enquête moins bien, a-t-il dit, quand c'est un noir ou un arabe. Là, il met en cause la justice et les services. On enquête moins bien. Et il évoque, qu'est-ce qu'il évoque, évidemment, l'affaire Adama Traoré. Autrement dit, c'est une famille qui ne fait pas de politique, a des avocats qui, eux, politisent l'affaire et continuent cet amalgame, cette chaîne terrible, maléfique, qui va aller du cas de l'Amérique, de Minneapolis, avec Floyd, jusqu'à aujourd'hui, Chouvia, qui n'a rien à voir avec l'affaire politique.
Et qui donne ensuite cette opération police égale racisme plus violence,
et qui met le pouvoir au pied du mur.
Alors justement, Charles, si vous voulez, j'abonde dans ce sens, en effet, puisque toute la conférence de presse a consisté en réalité de la part des avocats, et pas du chagrin de la famille tout à fait compréhensible, de politiser complètement l'affaire, de l'étendre, de mettre, si vous voulez, une pression sur les ministères compétents, aussi bien le ministre de l'Intérieur que le ministre de la Justice, et de répondre aux exigences de vérité et de transparence, et en même temps ne pas donner le sentiment de lâcher l'appareil policier. Oui. C'est en cela que, si vous voulez, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice sont en difficulté par rapport à une affaire de ce type.
Oui, mais comme ils sont déjà
acculés.
Le monde est d'accord là-dessus, de gauche à droite, du centre, tout le monde dans le monde politique sait que M. Castaner est carbonisé politiquement comme ministre de l'Intérieur. C'est un fait. Fait acquis. Ah bon. Madame Belouba comme garde.
Belouba.
Madame
Belouba. Ah bah, carrément, vous l'avez débattu.
Les Belouba et Belouba. Madame Belouba comme garde des Sceaux a fait une faute tellement grosse qu'à mon avis, ça lui coûtera aussi son ministère. Donc, l'État est démuni. Les deux ministres qui doivent incarner la réponse de l'État, ils sont aux abonnés absents. Alors, du coup, tout remonte vers le président
de
la République.
Et le président de la République. Exactement, l'appel est lancé. La réponse du président quid de sa réponse. Quand vous vous souvenez que le dimanche où il a parlé racisme et policiers, c'était dû en même temps, puisqu'il a dit non au racisme, mais les policiers soutenus.
Mais on croyait qu'il avait liquidé les choses.
Exactement,
pas du tout.
Effectivement, ça revient comme un boomerang. Donc on en parle juste après ça. A tout de suite, les grandes voix.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy, avec les grandes voix, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, jusqu'à 19h.
Et oui, on parle ce soir avec vous, messieurs, de ces différents faits et de cette tentation de l'amalgame que l'on voit un peu plus au fil des jours, et aussi, disons, du silence. En tout cas, Emmanuel Macron, pas très prolixe sur ce sujet. Je disais qu'il avait pris la parole le fameux dimanche du déconfinement de la dernière phase en disant, voilà, sont typiquement en même temps. non-racisme, mais soutien à la police, il va falloir certainement en dire plus dans les prochains jours.
Oui, il va falloir qu'il lâche du lest maintenant. Parce que, prenons un seul exemple. Il avait dit, en France, on ne déboulonnera pas de statut. Qu'est-ce qu'on apprend ce matin? On apprend qu'à Thionville, le lycée de Thionville va changer de nom. Il s'appelait Colbert. Ben, comme le collège Colbert à Paris, où j'ai fait mes études. Bon, Colbert. On va démissionner, on va maintenant débaptiser tout ce qui s'appelle Colbert et assimiler. Et on le remplace effectivement par un nom. Ça commence la valse. Donc, si vous voulez, il n'a pas, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé les mesures qui vont lui permettre de calmer à la fois les policiers et à la fois les familles maintenant qui se dressent.
Non, mais pour les policiers.
Le lycée, il sera renommé Rosa Parks, hein, qui est en fait un choix bien précis, qui est rebaptisé comme ça en hommage à l'activité afro-américaine, emblème de la lutte contre la ségrégation.
On est pas en Amérique.
Alors, voilà, Charles Villeneuve.
Oui, non. La police est en proie à un grand malaise, un énorme malaise, et elle peut être tentée, si vous voulez, par une forme de service minimum. D'ailleurs, plusieurs mots d'ordre circulent dans les rangs de syndicats de policiers sur ce plan-là. Quant au président de la République, il a du pain sur la planche, il faut le dire. Il a pris une position, cette position a été entamée notamment justement à Thionville, dont le maire est républicain et dont le président de région est aussi républicain. Mais maintenant, si on se met, si vous voulez, pour l'identité nationale, à triturer toute l'histoire nationale, et les dates historiques, et on a du pain là aussi sur la planche, en ce qui concerne l'enseignement. Parce que si on passe, si vous voulez, au peigne fin le siècle de Louis XIV et de son surintendant des finances Colbert, dont on retient de toute façon tout le travail qu'il a pu faire sur la centralisation justement de la politique et de l'État, on enlève et on déboulonne quasiment les trois quarts des statuts et des
ministres. Et on entend la passionnariat Assa Traoré parler ce matin devant la fresque qui montre effectivement Floyd à côté effectivement de Traoré. Elle parle de nos morts. C'est-à-dire qu'on a l'impression maintenant qu'on a un État, un micro-État séparatiste de la France qui va revendiquer ses morts. Enfin, ce sont des morts français, que je sache.
Sauf que, donc, c'est à Emmanuel Macron de reprendre la main, là. Et vite, parce qu'on voit bien, pour l'instant... Charles, n'enlevez pas le micro, vous êtes encore là. On est encore là. Et que fait Emmanuel Macron? Pourquoi est-il aussi silencieux? C'est un sujet...
Il a été très clair sur le plan du déboulonnage des statuts historiques et aussi sur l'exigence, c'est vrai aussi, d'un parfait comportement de la police, mais aussi de sa confiance.
Oui, c'était dû en même temps.
Non, mais il a raison d'exiger de toute façon, si vous voulez, une pratique policière de toute façon irréprochable. Ça, on peut pas le critiquer sur ce plan-là, sérieusement. Mais en même temps, la confiance absolue. Et c'est vrai que les policiers eux-mêmes ont reconnu, même s'ils continuent leur manifestation, parce qu'il est bien évident, d'ailleurs, la technique de l'étranglement, dit d'étranglement, c'est-à-dire de la clé au cou, qui est d'ailleurs enseignée dans toutes les écoles de judo, soit dit en passant, existe encore, parce qu'on n'a pas trouvé de technique de remplacement.
Mais Gérard Carrérou, donc quand il nous fait du en même temps pendant son discours de dimanche, il dénonce le racisme tout en soutenant les forces de l'ordre.
Oui, moi j'avais approuvé une partie de son discours en disant qu'il n'avait pas fait du... Il n'a pas fait tout à fait du en même temps. Il avait été quand même très ferme à l'égard, effectivement, de la reconnaissance et du soutien qu'on doit adresser.
Ce qu'on
constate, c'est que ce discours, qui allait dans le bon sens, est évidemment bien insuffisant par rapport à ce que lui réclament tout à la fois les policiers, qui sont mécontents, les minorités agissantes, style Traoré and Company, puisqu'ils se réclament des États-Unis, on peut parler
à l'américaine, donc voilà.
Et en fait, effectivement, maintenant, le fait nouveau des familles qui ont une résonance parmi les jeunes de notre société, etc.
Non, mais il y a un fait qui illustre parfaitement l'absence, parfois, et notamment, c'est le cas, à Stein, de l'autorité de l'État. On interdit aux syndicats de policiers de se réunir devant la fresque. Par contre, Assa Traoré et ses milices arrivent et font un discours éminemment politique. Et là, les forces de l'ordre ne l'ont pas dispersé, puisque elle aussi était frappée d'interdiction.
Et alors que 200 policiers ont manifesté d'ailleurs hier devant la préfecture de Bobigny pour dénoncer cette fresque contre le racisme et les violences policières.
Donc cette affaire ne fait que commencer.
Ne fait que commencer. Merci beaucoup messieurs les grandes voix, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou. On se retrouve demain.
À demain.
Même endroit, même heure. On parlera des municipales parce que c'est dimanche, J-3. On fera un tour de France, si vous le voulez bien. Les grandes villes, les enjeux, évidemment. Europe Écologie Les Verts qui prend le pas sur l'AREM et sur la République. La République en marche.
Avec Catherine.
Ils ont
pas voté encore.
Exactement. Ensemble. Allez, on se retrouve demain, alors, à la même heure. Merci, les grandes voix.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
Et c'est un nouveau journal complet, celui de Sébastien Krebs. C'est le protocole sanitaire en entreprise qui commence, ça y est, à être assoupli.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1 et la suite du programme, Nathalie Lévy.
Alors après 19h, vous le savez, on regarde vers demain avec d'abord à 19h20 les municipales, J-5, tous les soirs nous donnons la parole à des patrons de partis. Ce soir je reçois François Patriat, président du groupe La République En Marche au Sénat. Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron se sont rencontrés aujourd'hui. Vendredi ce soir, ce sera François Hollande, l'ancien président, qui rencontrera l'actuel. On en parle bien sûr avec lui. Puis à 19h30, la parole à ceux qui ont décidé de sauter le pas. Oui, il y en a qui l'ont fait. Changer de vie. Avec le confinement, certains Français ont décidé de fuir les métropoles, de dire stop au métro, boulot, dodo et de recommencer ailleurs. Alors, effet de mode ou tendance durable, on attend vos réactions au 3921 hashtag Europe 1.
Et votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
C'est quand même bien de garder encore un petit peu de distanciation parce que c'est bête d'avoir fait tout ça pour rien, 3 mois, tous isolés, pour que ça recommence peut-être à l'hiver prochain.
Les salariés plutôt prudents face au déconfinement, alors que le protocole sanitaire dans les entreprises s'apprête à être allégé pour encourager le retour au bureau.
La Guyane, en revanche, est au bord du reconfinement. Des moyens supplémentaires ont été envoyés sur place.
L'épidémie qui accélère sur la planète, ce sera demain dans Le Monde avec Didier François.
Dans ce journal aussi, le clan Fillon qui demande la reprise des débats au procès des emplois fictifs après les pressions évoquées sur l'enquête.
Demain en France, les EHPAD forcés de se réinventer. Et puis le foot, le chouchou des Français Antoine Griezmann est bien malheureux à Barcelone.
Et Anissa, le temps ? Très beau encore demain, une belle journée d'été et surtout des températures en hausse encore demain. Il va faire très chaud, très lourd et quelques orages à prévoir en altitude. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Les organisations patronales ont rendez-vous à l'Élysée demain pour examiner un assouplissement du protocole sanitaire appliqué dans les entreprises. Les règles seraient moins contraignantes avec l'obligation d'imposer 1 mètre entre chacun et plus 4 mètres carrés par personne. De quoi permettre le retour de salariés plus nombreux. Mais certaines entreprises restent prudentes. C'est le cas de cette PME de Marseille où vous vous êtes rendue, Nathalie Chevance.
Oui, dans cette société, 14 salariés et un peu plus de la moitié de retour au bureau par roulement. Ici, la fin programmée des 4 mètres de distance entre chaque collaborateur ne changera pas grand-chose, car l'espace a déjà été repensé et pas question de tout chambouler, comme l'explique Nathalie Agege, présidente de la société Pronim. Pas encore soulagé.
Pour l'instant, je pense que c'est primordial de garder la distanciation sociale avec nos collaborateurs et les visiteurs qui viennent chez nous. On fait encore beaucoup de rendez-vous en visio. On prend toujours pas l'avion ni le train pour se rendre à nos rendez-vous. On serre pas la main, on fait pas la bise. On a du gel, on a des masques. On l'a encore. La santé de mes collaborateurs, c'est extrêmement important. Le bien-être dans leur famille, c'est extrêmement important. On n'est jamais 100% de l'équipe.
Le télétravail reste donc privilégié et Charlène au marketing a réintégré les locaux de son entreprise hier seulement, toujours très prudente.
C'est quand même bien de garder encore un petit peu de distanciation parce que c'est bête d'avoir fait tout ça pour rien, 3 mois, tous isolés, pour que ça recommence peut-être à l'hiver prochain. Mais ça n'empêche pas d'avoir des moments d'échange le matin où on prend le café peut-être dans une salle plus grande. Mais voilà, j'essaie de garder une distanciation quand même.
Et dans cette PME qui fabrique des textiles intelligents, qui a vu son chiffre d'affaires augmenter pendant l'épidémie, la volonté c'est bien d'instaurer une nouvelle organisation du travail.
Nathalie Chevance à Marseille.
La pression qui se relâche en métropole, mais l'épidémie qui s'aggrave. En revanche, en Guyane, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est arrivée sur place et un reconfinement est même envisagé.
Et Pierre Herbulot, des moyens supplémentaires ont été envoyés sur place.
Oui, des moyens médicaux pour éviter la saturation des hôpitaux. Des renforts de la réserve sanitaire sont arrivés sur place hier. D'autres soignants sont attendus dans les prochains jours. Un hôpital de campagne est en train d'être déployé et des évacuations sanitaires vers les Antilles ont aussi commencé. Pour ralentir la propagation du virus, le couvre-feu mis en place a également été élargie. Impossible de circuler de nuit dans les plus grandes villes du territoire. Et enfin, les élections municipales censées se tenir dimanche ont à nouveau été décalées. La Guyane, c'est 135 nouveaux cas de coronavirus depuis hier, 2600 malades au total. Mais plus que les chiffres, ce qui inquiète, c'est la tendance. En ce moment, chaque patient Covid contamine au moins deux autres personnes, d'après la Direction générale de la Santé. Ralentissement ou accélération de la propagation du virus, les résultats des mesures mises en place devraient donc orienter la décision du gouvernement, reconfiner les Guyanais ou pas.
Pierre Herbulot, merci. La Guyane qui est frontalière du Brésil, hein, où la situation est particulièrement préoccupante.
Et demain dans le monde, justement, c'est cette inquiétude qui grandit sur l'accélération de l'épidémie dans plusieurs régions. Bonsoir Didier François,
bonsoir.
Bienvenue. Le directeur général de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, ça y est, vient de lancer une mise en garde solennelle. L'épidémie, eh bien, elle est loin d'être terminée.
Oui, effectivement, à l'exception de l'Europe qui a réussi à enrayer la dissuasion massive de la maladie, le virus continue à se propager à un niveau important aux États-Unis, très élevé en Amérique latine ou en Inde. Il ne faiblit pas en Afrique et on le voit même ressurgir en Asie avec ce nouveau foyer en Chine autour de Pékin, mais surtout une véritable seconde vague qui frappe durement la Corée du Sud depuis la mi-mai avec une moyenne de 35 à 50 infections par jour. Alors des chiffres qui, cumulés, n'ont rien d'anecdotique au point effectivement que le directeur général de l'OMS a décidé de tirer la sonnette d'alarme.
Il me semble que nous battons chaque jour un sinistre record. Hier, plus de 183 000 nouveaux cas de Covid ont été signalés à l'OMS, ce qui est le bilan le plus important jamais enregistré en une journée.
Voilà, et ce qui inquiète, vous l'avez compris, c'est que l'ouverture des frontières des pays qui, eux, ont jugulé l'épidémie et qui veulent relancer leur économie entraîne finalement un regain de contamination puisque des foyers infectieux très virulents subsistent dans le reste du monde.
Et on le disait, donc juste à côté de la Guyane, le Brésil est un cas d'école.
Tout à fait, le Brésil est aujourd'hui le réservoir de Covid-19 le plus important d'Amérique latine, avec une réponse sanitaire indigente de la part du président Bolsonaro, une propagation de l'épidémie totalement hors de contrôle qui est en train de déborder, on le voit, sur la Guyane française. L'autre risque, c'est évidemment celui d'un rebond dès lors qu'on assouplit les mesures barrières. Et là, on a deux alertes en Europe, hein, l'Allemagne qui vient de reconfiner un canton, le Portugal qui s'inquiète de l'apparition d'un nouveau foyer dans le sud. Alors, ça reste maîtrisé, mais ça prouve qu'il faut quand même vraiment rester vigilant.
Ouais, merci Didier François. À demain.
Et
vous parlez
très vite.
L'Allemagne. Hein. L'Allemagne, c'est 1,5 million d'habitants qui se reconfinent en Rhénanie en raison de ce foyer apparu dans un abattoir. En revanche, les Britanniques qui ont payé un lourd tribut, eux, voient le déconfinement se poursuivre avec, à partir du 4 juillet, la réouverture des pubs, mais aussi des hôtels.
Quant aux Français, Sébastien, ils continuent de remplir leur bas de laine. Le niveau d'épargne explose encore au mois de mai.
4 milliards d'euros versés sur les livrets A. C'est un nouveau record après déjà celui du mois d'avril. Et si on cumule avec le livret développement durable, ce sont plus de 22 milliards d'euros qui ont été mis de côté par les Français depuis le début du mois de janvier. L'année dernière, c'était 13. Et puis, on l'apprend ce soir, le célèbre traiteur Fauchon demande à être placé en redressement judiciaire. Ça concerne son siège et ses 3 magasins. Parisien.
4 CRS mis en examen pour des violences volontaires. Les faits remontent à décembre 2018, en marge alors du mouvement des Gilets jaunes.
Ils sont accusés d'avoir matraqué des manifestants qui s'étaient réfugiés dans un fast-food près des Champs-Élysées. Ce sujet des méthodes policières remis aussi à la une aujourd'hui par la famille de Cédric Chouviat, qui en appelle à Emmanuel Macron et qui demande une réponse rapide sur les techniques d'interpellation. Ce livreur est mort au mois de janvier après un plaquage au sol. C'était à Paris, près de la Tour Eiffel.
François Fillon qui veut lui retourner au tribunal. Sa défense demande en fait la reprise du procès.
Oui, alors que le jugement de l'ancien Premier ministre et de son épouse est attendu lundi dans l'affaire des emplois fictifs. Écoutez son avocat Antonin Lévy. Il estime que les pressions récemment évoquées par l'ancienne chef du parquet financier doivent être examinées d'abord.
La seule chose que l'on demande, c'est que les déclarations très récentes de Madame Houlette, qui viennent jeter une nouvelle lumière sur des événements qui datent de 2017, puissent être pris en compte dans un délibéré qui doit tomber lundi prochain. Nous ne sommes pas responsables de la temporalité de ces déclarations, nous ne sommes pas responsables de la saisine extrêmement récente du Conseil supérieur de la magistrature, nous demandons simplement que la décision qui sera rendue puisse l'être en ayant tous les éléments en main et pour que le tribunal soit parfaitement éclairé. Ce n'est pas seulement une question de forme. Pendant des semaines, au procès, nous nous sommes parfois vivement déchirés avec le ministère public sur la manière dont l'enquête s'était déroulée. Nous pensons que ces investigations actuellement conduites vont pouvoir jeter un jour nouveau sur ces débats que nous avons eus et viennent confirmer ce que nous dénonçons depuis le début.
Antonin Lévy, l'avocat de François Fillon, il répondait à Alain Accaud. Et puis un autre procès arrive progressivement à son terme. Le procès géant du Mediator est passé aujourd'hui aux réquisitions. Le parquet a pointé les dissimulations et manœuvres du laboratoire Servier qui a maintenu ce médicament sur le marché en dépit des risques. Réquisitoire qui va s'achever demain.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. À suivre dans votre édition de 19h demain en France, les EHPAD, frappés de plein fouet par la crise de la Covid, doivent se réinventer désormais.
Et puis le mercato du foot est lancé et les rumeurs vont bon train sur Antoine Griezmann qui est malheureux au Barça.
Europe 1.
19h10 sur Europe 1, votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Et c'est l'heure de demain en France avec vous Jean-Pierre Montanet, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir Sébastien.
Pointé du doigt, évidemment, on s'en souvient pour leur gestion de la crise sanitaire qui les a durement, lourdement frappés, les EHPAD vont devoir se repenser. Hein.
Oui, c'est ça, un mort sur deux du corona résidait dans un EHPAD, hein. Surmortalité chez nos aînés, mais aussi traumatisme indélébile pour le personnel soignant, dépassé par l'ampleur de la tâche, unique témoin de cette hécatombe à huis clos. Fatalité ou défaillance en chaîne dans la gestion de cette pandémie, à la commission d'enquête ouverte à l'Assemblée de traquer, voire d'identifier les éventuels dysfonctionnements. Le modèle des EHPAD a du plomb dans l'aile, m'a dit avec provoque Marianne Monchamp, un président de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Elle milite pour une refonte en profondeur du système, pour plus d'humanité, davantage d'éthique. Bref, moins de contraintes et plus de liberté pour ceux qui y résident pour terminer leur existence.
Alors à quoi pourrait ressembler cette EHPAD du futur ?
Sébastien, si on doit tirer les leçons de la crise, ça passe d'abord par la rénovation de ceux qui sont décrépits. Hein. Un sur trois, presque un demi-siècle. Or, la qualité des murs, le confort des locaux sont des signes de bien-traitance. Il semble impérieux à l'avenir aussi de mieux les équiper. Regardez l'Italie, elle a sauvé des vies dans ses établissements grâce à des respirateurs de réanimation inexistants chez nous. Enfin, il faudra les ancrer dans le monde de demain en les dotant d'outils numériques et des nouvelles technologies pour permettre de maintenir un lien à distance entre les résidents et leurs familles. Pour Marianne Monchamp, au-delà des conditions matérielles, il y a surtout urgence à redéfinir la place des personnes âgées dans notre société, la façon de les accompagner dans leur fin de vie. Dans leur grande majorité, elles n'ont qu'une envie, rester le plus longtemps possible à la maison. Alors à l'entendre, l'EHPAD de demain a une mission, se transformer en domicile pour chaque résident afin qu'il ait l'impression de vivre chez lui. Sacré défi.
Merci Jean-Pierre Montanet, c'est vrai que c'est le défi de l'avenir. À demain.
Et on va terminer avec du foot. Antoine Griezmann qui semble bien malheureux au Barça.
Oui, méconnaissable, hein, très loin de son arrivée l'été dernier en grande pompe au Camp Nou. Le champion du monde éprouve de grosses difficultés sur le terrain, souvent remplacé ou remplaçant. L'ex-attaquant de l'Atlético Madrid semble anesthésié à Barcelone, Simon Rubin.
Oui, la presse catalane hein, s'interroge, les supporters catalans s'interrogent aussi. Il est vrai qu'un an après son transfert, l'aventure Griezmann au Barça n'est pas aussi glorieuse que prévu. Il est rarement décisif, il n'a joué en intégralité qu'un tiers des 15 derniers matchs de son club, preuve qu'il a du mal à s'intégrer. Au club, hein, il n'a pas été accueilli comme un roi, c'est le moins qu'on puisse dire. Longtemps boudé par Lionel Messi, il n'a toujours pas réussi à faire son trou. Une situation qui ne pourra pas durer trop longtemps, juge notre consultant Giroud.
Le problème, c'est que son jeu n'est pas complémentaire du jeu de l'équipe. Et donc, ça crée chez lui un mauvais état moral. Ça deviendrait, si ça durait toute l'année, un gros problème pour Didier Deschamps.
Antoine Griezmann, qui a 29 ans, il entreaperçoit la fin de sa carrière. Le temps lui est compté et il ne peut pas se contenter de cette situation. Alors, pour l'heure, un départ n'est absolument pas d'actualité. Il lui reste 8 matchs de championnat et aussi la Ligue des Champions pour essayer de briller à nouveau.
Simon Rubin, du service des sports d'Europe 1, le Barça qui reçoit ce soir l'Athletic Bilbao avec un enjeu. Les Catalans ont perdu la tête du championnat le week-end dernier après leur match nul contre Séville. Et puis en France, on jouera bien à 20 clubs la saison prochaine en Ligue 1. Décision confirmée aujourd'hui par l'Assemblée Générale qui réunit tous les clubs professionnels, ce qui implique donc la confirmation de la relégation d'Amiens et Toulouse en Ligue 2.
À tout à l'heure, Sébastien Krebs, 19h30. Anissa, le temps, très chaud. Et plus nuageux aussi.
Oui, ouais, un petit peu plus de nuages, effectivement, demain pour cette journée où le temps sera lourd. Alors d'abord sur le littoral du Roussillon, où nous aurons des nuages bas le matin. Ce sont des entrées maritimes qui pourront masquer un peu l'impression de beau temps. Mais vous verrez au fil des heures, ces nuages vont très vite se dissiper. Et puis dans l'après-midi, c'est en altitude sur les Pyrénées et les Alpes que les nuages seront les plus nombreux. Ils pourront même provoquer des averses, parfois orageuses localement. Sur tout le reste du pays, c'est encore une très belle journée. Il fait très beau, très chaud. Écoutez bien les températures, 13 à 18 degrés en moyenne, jusqu'à 22 au bord de la Méditerranée demain matin. Et puis dans l'après-midi, ça grimpe, il va faire lourd. Alors là, c'est respirable à Saint-Brieuc avec 26 degrés, 27 à Brest et à Nice, 29 à Lorient, Belfort et Marseille. Et là, ça devient chaud. 31 degrés à Rouen et Rodez, 33 à Clermont-Ferrand et Limoges, 34 pour Paris, Bourges et Toulouse, 35 à Lyon et la maximale est prévue pour Cahors demain avec 36 degrés.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous Nathalie Lévy et votre invité dans un instant, l'interview de demain. Oui, on est à J-5 avant le second tour des municipales. Quel enjeu pour les partis. Toute la semaine, nous recevrons les patrons des principaux états-majors. Ce soir, c'est François Patriat, mon invité, président du groupe La République En Marche au Sénat.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous Nathalie Lévy et ce soir vous avez décidé de donner la parole à ceux qui ont décidé de sauter le pas pour changer de vie. Après le confinement, certains Français choisissent de fuir les métropoles. Alors doit-on y voir une tendance durable? On en parle avec vos invités, Jérémy Pelletier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès et Philippe Gabillet, psychologue social à l'ESCP Business School. Bonsoir à tous les deux, bienvenue dans ce studio.
Bonsoir.
Alors on n'a pas encore ceux qui ont décidé de s'installer au vert, mais on a les spécialistes qui sont là pour nous en parler, donc bienvenue. Pour tout à fait être sincère auprès de nos auditeurs, on devrait être en ligne avec François Patriat, à l'heure actuelle sénateur de la Côte d'Or et président du groupe La République En Marche au Sénat, qu'on tente de joindre et qu'on parviendra peut-être à interroger dans les toutes prochaines minutes, mais on va démarrer du coup ensemble, effectivement. Merci de nous accompagner. Jérémy Pelletier, est-ce que vous avez pu observer véritablement un exode des, pas seulement des Parisiens, mais des citadins vers le vert, mais attention, un exode durable après le confinement, ou même pendant?
Alors, on a vu effectivement un exode. Alors, ça pouvait sembler assez marginal sur l'ensemble de la population. En gros, nous, dans les enquêtes qu'on a faites et qui ont été d'ailleurs corroborées par notamment Orange, qui a également fait ses propres enquêtes, on avait à peu près 4%, je dirais, des Français qui sont partis de leur lieu d'habitation pendant le confinement, je dirais, entre le 15 et le 17 mars, justement, pour, entre guillemets, se mettre au vert. Et quand on regardait uniquement, effectivement, les Parisiens, là, on est tombé à 17%. Et après, il fallait regarder même un peu plus finement. C'est-à-dire, quand on regardait les Parisiens, on s'aperçoit qu'il y avait une grande majorité de CSP+, de cadres, de professions intellectuelles qui sont partis de Paris et aussi les jeunes, les moins de 35 ans. On a 28% des Parisiens de moins de 35 ans qui sont partis. C'est un peu ce qu'on a appelé, vous savez, les tanguis du confinement qui sont rentrés chez leurs parents, etc. pour aller se mettre au vert. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de savoir si ces départs-là, cet exode-là, va se révéler ensite sur le moyen terme, sur
pérenne,
le long terme.
C'est ça,
et en gros, s'il y a des tendances qu'on peut déjà observer.
Vous n'allez pas tout me dire.
Je ne vais pas tout vous dire.
On va aller sur les tendances et tout ça dans une petite seconde. Je me tourne vers vous, Philippe Gabillet. Vous êtes psychologue social à l'ESCP, c'est l'ESCP Business School.
Tout à fait.
On est bien d'accord.
Tout à fait.
Et vous avez signé L'Art de changer de vie en 5 leçons aux éditions Saint-Simon, donc on est clairement dans le thème.
Voilà.
D'abord, le confinement, ça a troublé beaucoup de monde et pour cause. Ça a donné des envies d'ailleurs. Le télétravail aussi a généré des envies d'ailleurs à pas mal d'entre nous. Mais quand même, est-ce qu'on peut vraiment mettre en place une espèce de mécanique comme ça, intellectuelle, de dire « Allez, on saute le pas uniquement parce qu'on a été confiné 2-3 mois ?»
En ce qui concerne le fait de l'élaborer mentalement, oui, bien évidemment. Je ne sais plus qui est-ce qui disait, il y a deux types de rêves. Il y a les rêves qu'on fait en dormant et il y a les rêves qui nous tiennent éveillés. Le rêve de trouver une autre vie, être sûr qu'on ne passe pas à côté de la sienne, fait partie de ces rêves-là. Le confinement a été vécu par beaucoup de gens, j'allais presque dire d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue à la fois émotionnel, cognitif, comme une espèce de parenthèse. Mais qui dit parenthèse dit un début, une fin. Mais pendant cette parenthèse, des choses se sont passées. Et quand cette parenthèse intervient sur un terrain psychologique, qui est un terrain allez, on va dire peut-être de lassitude professionnelle, d'ennui.
Il y a déjà des signaux, disons.
Il y a déjà des signaux, et ça, cette parenthèse qui n'est pas la parenthèse des vacances, parce que dans le fond, les vacances sont des parenthèses. Mais ça, c'est une parenthèse un peu particulière, c'est une parenthèse où ça continue sans continuer, on y est sans y être, etc. Et qui permet d'expérimenter que serait, dans le fond, la vie dont je rêve dans cet environnement-là. Et surtout, ça permet pendant ce temps de faire des scénarios, d'élaborer des choses. Ouais. On dirait, dans un français populaire, de gamberger.
Oui, c'est ça, complètement. Alors, du coup, je reviens à vous, Jérémy Pelletier. On a eu le temps d'élaborer un peu. On a sauté le pas pour certains d'entre nous. On voit comment se dessiner cette répartition au sein de la population, les citadins, mais en termes de catégories socio-professionnelles, d'âge, etc.
Alors, on voit effectivement un certain nombre de tendances, et notamment liées au cadre et aux professions intellectuelles dont je parlais. Et il y a un outil qui est assez formidable pour essayer de comprendre un petit peu les tendances et ce qu'on a dans la tête et les désirs aussi qu'on a dont vous parliez. C'est un site comme Le Bon Coin. Vous savez, on fait beaucoup parfois d'analyses sur Google pour regarder ce que les recherches que nous faisons sur Google disent des individus et disent du désir des individus. Et ben, quand on regarde sur un site comme Le Bon Coin, c'est une étude qui a été réalisée par Jérôme Fourquet de l'IFOP, et ben on s'aperçoit que au milieu du confinement et même vers la fin du confinement, on s'aperçoit qu'on a un pic de recherche des Français sur des maisons par rapport aux appartements. On recherche beaucoup plus par rapport à la période similaire l'année dernière, des logements situés dans des communes rurales, dans des petites villes. Et quand on s'intéresse uniquement aux recherches sur Le Bon Coin faites par les personnes issues de la région parisienne et notamment de Paris, on s'aperçoit qu'on a un pic sur la région de Bourgogne et dans les recherches vers la région Bourgogne, vers la région centre Val de Loire, ce qui en fait sont des régions où il fait bon vivre, où le cadre de vie est intéressant, et qui, et je pense que ça c'est très important, qui ne sont pas tant éloignés de Paris
que ça. C'est ce que j'allais dire. Il y a vraiment cette notion de, quand même, on quitte Paris ou on quitte une grande ville, mais vous allez me répondre peut-être là-dessus, on garde une espèce de sécurité, Philippe Gabillet, on s'éloigne, mais dans une mesure raisonnable. Ça rassure ou est-ce que d'ailleurs...
Oui, je pense que ça rassure. Vous savez, quand un individu veut gérer un changement dans sa vie, les gens qui l'accompagnent, que ce soit des thérapeutes ou autres, travaillent toujours à partir d'un concept très très simple qui nous vient de l'analyse transactionnelle et qui s'appelle le triangle permission, puissance, protection. C'est-à-dire que j'ai besoin de me dire, est-ce que j'ai le droit dans ma tête, quoi, est-ce que j'ai le droit? Alors est-ce que moi j'ai le droit ou est-ce que dans le fond, autour, ma famille me donne le droit, mes enfants. Bon. Ensuite, la puissance. La puissance, c'est au sens des moyens. Est-ce que j'ai la capacité? Parce que c'est bien beau de dire maintenant, on va vivre à la campagne, on aura une maison alors qu'on est à un appartement, etc. Il y a une reconfiguration de la vie quotidienne qui m'aide. Et puis, il y a la protection. Il y avait une étude qui était sortie il y a quelques années sur les Français face au désir de changement de vie. Il y avait effectivement 7 Français sur 10 qui disaient qu'ils étaient prêts à changer de vie, dont d'ailleurs 20% à peu près sûr et certain. Mais quand on leur demandait, mais alors qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher? Il y en avait quand même à l'époque 20% qui disaient, je suis pas totalement sûr que mon banquier va me suivre. Ce qui montre bien qu'on était quand même des aventuriers, mais des aventuriers raisonnés.
Il y a toujours la raison qui nous rattrape, il y a les garde-fous qui vont bien. Je vous redonne la parole, Jérémy Pelletier. On a un tweet, Anissa?
Oui, on a un tweet de Ninon qui dit, j'ai 31 ans, je pensais vivre à Paris pour le travail. Je me suis rendu compte avec le confinement que je pouvais travailler n'importe où. C'est une libération qui m'a permis de partir.
Ah oui, il y a aussi cette notion quand même, de heureusement. Enfin,
ça permet, il y a des gens qui, grâce au confinement, ont véritablement vécu ce qui n'arrivait pas, une expérience nouvelle, et l'expérience va booster l'envie. Il va dire, mais c'est vrai, c'est le pourquoi pas. Mais dans le fond, et d'ailleurs, je veux dire, pourquoi pas, c'est pourquoi pas moi, et pourquoi pas maintenant.
Bien sûr, c'est ça, après tout. Comme les copains. Oui. Enfin, on peut se lancer. Jérémy Pelletier?
Mais ce qui est très intéressant, avec l'émergence de ce télétravail-là, c'est que d'une part, vous avez effectivement la libération psychologique dont parle beaucoup Julia Dufunès, c'est-à-dire qu'on a arrêté le théâtre en présentiel, dans nos réunions de travail, etc. etc. Mais il y a aussi la relativisation de la place du travail dans nos vies. C'est-à-dire que les gens, finalement, se sont rendus compte qu'ils étaient beaucoup plus efficaces, en télétravail, et que, finalement, le travail et le temps de travail n'avaient pas, finalement, une place si importante que ça dans leur vie, et que on pouvait se projeter dans ce que Jean-Vierre appelle la société de loisirs. Et donc, dans la société de loisirs, il y a évidemment le fait de vivre dans un lieu, dans une région qui ressemble un peu plus à une région de vacances.
Oui. Philippe Gabillet, sur cette notion de télétravail, on voit que il y a un vrai succès, et peut-être même que si on est en face d'une deuxième crise à la rentrée, on verra, il faudra de nouveau télétravailler au maximum, etc. Mais est-ce que culturellement, on peut changer notre paradigme par rapport au télétravail, les directions d'entreprise, les dirigeants d'entreprise, parce que quand même, il y a les mentalités, je ne sais pas, hein, je me trompe peut-être, mais chez les Latins, on a un peu envie d'avoir les gens sous la main, non ?
En fait, je pense qu'on ne sait pas encore. On ne sait pas encore parce que la période de confinement aura vraisemblablement légitimé définitivement le télétravail. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça signifie le télétravail sur la longue durée pour les gens qui vont le faire ? On ne sait pas trop. En plus, il y a une différence entre le télétravail que beaucoup pratiquent, à savoir ils sont deux jours
voilà, c'est ça l'alternance.
Et puis le télétravail, je suis vraiment à distance. Il y a des questions, il y a des questionnements. Hein. Dans quelle mesure est-ce que quelqu'un qui fonctionnera en télétravail tout le temps, parce qu'il sera à 150 km de Paris, est-ce qu'il ne risque pas de sortir des radars de l'entreprise, par exemple, en termes de promotion, en termes de proposition de formation continue ? Vous voyez, il y a des tas d'éléments, mais on n'a pas aujourd'hui, sincèrement, le recul pour le dire. Mais on peut analyser aussi un certain nombre de risques. Mais sachant, il faut admettre que psychologiquement, vous avez des gens, c'est le télétravail est pour eux, un moyen véritablement de se rebooster totalement, de se retrouver dans une zone de liberté dans cet univers fondamentalement contraignant qui peut être le travail, puis qui n'est pas non plus un environnement fondamentalement bienveillant dans toutes les entreprises. Ouais. Donc là, il y a quelque chose qu'il va falloir suivre, mais il est trop tôt. Ouais, pour tirer des plans,
exactement. Pense. Alors, nous, on va continuer à en faire des plans avec vous, Jérémy Pelletier, avec vous, Philippe Gabillet, dans un petit instant, juste après le rappel des titres de Sébastien Krebs.
Europe 1.
19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Avec votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
L'avocat de François Fillon demande la réouverture de son procès alors même que le jugement est attendu dans quelques jours dans l'affaire des emplois fictifs. La défense exige de faire la lumière sur les pressions évoquées par la procureure financière. Le traiteur Fauchon, victime du confinement, l'enseigne demande le placement en redressement judiciaire de son siège et de ses 3 boutiques parisiennes. 130 salariés sont concernés. De son côté, Air France acte le départ de 400 pilotes via un accord de rupture conventionnel collective. À retenir aussi ce soir, l'Allemagne reconfine 2 cantons, 1,5 million d'habitants en raison d'un très gros foyer apparu dans un abattoir en Rhénanie. En France, Emmanuel Macron consulte sur l'après-crise. Nicolas Sarkozy était à l'Élysée cet après-midi. François Hollande suivra vendredi. L'application mobile Stop Covid n'a pas pris, elle n'a servi en 3 semaines qu'à signaler 14 cas de contamination. Enfin, le numéro 1 du tennis mondial, Novak Djokovic, positif au coronavirus après le fiasco de son tournoi de tennis organisé dans les Balkans. Plusieurs autres joueurs étaient aussi tombés malades.
Merci Sébastien Krebs. On se retrouve demain à 18h. Vous serez au rendez-vous sans faute. Anissa, du côté du ciel, on a toujours du soleil et on a aussi des nuages.
Oui, c'est ça. Effectivement, on a un petit peu plus de nuages demain, notamment sur le littoral du Roussillon. Demain matin, vous aurez des entrées maritimes qui vont un peu masquer le ciel et cette impression de beau temps. Mais rassurez-vous, au fil des heures, le temps va très vite se dégager. Nous aurons aussi sur les Alpes et les Pyrénées demain après-midi des nuages qui vont se multiplier et créer des averses orageuses. Et partout ailleurs, c'est du grand beau temps. Attention, ce qui change demain, ce sont les températures qui grimpent. Nous allons avoir une sensation de temps lourd avec 13 à 22 degrés demain matin. Et dans l'après-midi, nous aurons jusqu'à 36 degrés pour Cahors ou encore Montauban, 35 à Lyon et 34 à Paris. À la suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec vos invités. Ce soir, on parle de ceux qui ont décidé, après cette pandémie, de sauter le pas et de changer de vie. Si vous en faites partie, venez nous rejoindre au 3921 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous recevez Jérémy Pelletier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès, et Philippe Gabillet, psychologue social à l'ESCP Business School.
Bienvenue à tous les deux. Donc on poursuit évidemment nos échanges avec les auditeurs qui vont nous rejoindre au 3921. Partir au vert, oui, sur le papier, partir au vert en toute sérénité, c'est moins évident et durablement un peu plus encore une prise de risque, surtout quand on délocalise toute la famille avec soi et qu'il faut impliquer évidemment des changements de fonction, de métier pour l'époux, etc., ou l'épouse, enfin bref. Jérémy Pelletier, ça n'empêche pas une certaine frange de la population aujourd'hui de se lancer au regard des études ?
Non, ça n'empêche pas une certaine frange de la population. Et il y avait notamment, vous savez, ce qu'appelait le chercheur Jean-Laurent Casselli, la révolte des premiers de la classe. Il avait très bien analysé ça, il y a de cela 1 an et demi, 2 ans, dans un remarquable livre où il avait dit, voilà, tous celles et ceux, vous savez, qui exercent des métiers de cadre, intellectuel, considérés comme étant des bullshit jobs. Et en fait, lui, il s'était dit, mais pourquoi vous avez tout un tas de ces salariés-là qui sont dans des agences de com, dans des agences de conseil, qui ont envie de changer de vie, qui ont envie de se mettre à la pâtisserie, qui ont envie de devenir boulanger, charcutier, etc., etc. Et ça répondait justement à ce dont on parle depuis le début de cette émission, à savoir certaines volontés de nouveaux quêtes de sens, un nouveau cadre de vie, l'impression de ne pas avoir de prise sur sa vie, etc., etc. Et donc, vous aviez déjà, en fait, cette population-là, ces premiers de la classe qui ont décidé, eux, de basculer. Et donc, on peut considérer que le confinement a été un accélérateur, en fait, justement, de tendance pour cette partie de la population-là. La question, c'est est-ce que les premières lignes, vous savez, de la République dont on a parlé tout au long du confinement, est-ce que cette catégorie-là, typiquement, de la population, va, elle, basculer, va pouvoir, elle, basculer, va avoir les moyens de basculer? Très honnêtement, je ne pense pas, parce qu'on n'est absolument pas dans le type de la population qui est en capacité de basculer.
Qui est peut-être pas en capacité, effectivement, mais psychiquement ou financièrement? Parce que Philippe Gabillet, évidemment, quand on est en première ligne, les soignants, les caissiers, etc., tous ceux qui ont été mobilisés au premier plan dans cette crise, il est plus évident, a priori, de poursuivre sa vie à Maubeuge que d'être en banlieue parisienne, ou même là, à Paris, dans le 13e, ou que sais-je. On n'est pas sur les mêmes tarifs, on n'est pas sur les mêmes exigences. Mais la prise de risque ne se fait pas.
La prise
parce
de
que...
risque, elle a une dimension économique, mais il n'y a pas que celle-là. Il n'y a pas que celle-là, parce que dans le fond, c'est souvent après avoir sauté le pas qu'on se rend compte qu'on a peut-être sauté un peu vite. Ouais. En deux mots, en fait. Quelqu'un qui change de lieu. Changer de lieu, c'est un changement parmi d'autres. Mais le changement de vie, en fait, c'est une reconfiguration, c'est un puzzle. C'est-à-dire que là où ça commence à devenir un peu chaud, c'est quand on change à la fois de lieu d'activité, de type de relation avec
c'est
les gens
du
et de perspective de vie. Et là, quand il y a la reconfiguration, pour qu'il y ait une reconfiguration, il y a deux choses qui sont absolument essentielles, mais on s'en rend compte qu'au fil du temps. Quand on change, il faut déjà se poser la question, qu'est-ce que je ne vais pas changer? C'est-à-dire, quels sont les éléments qui, eux, ne bougeront pas? Parce que j'ai du socle en moi. Ça peut être un système de valeurs, des relations familiales, la relation avec son conjoint et ses enfants, etc. Il y a des choses qui ne bougeront pas. Et ensuite, l'autre élément, c'est psychiquement, il y a vraiment des changements de vie, de fuite, souvent, et des changements de fuite, de vie, de conquête. Et la fuite, c'est la lassitude, je suis plus heureux là où je suis. Mais on peut pas uniquement bâtir un projet sur une fuite. C'est compliqué. C'est très compliqué.
C'est là qu'on peut souvent effectivement se planter.
D'être en cavale de la vie, c'est très très compliqué. Et par définition, ça signifie que l'élément psychique le plus compliqué quand on change, sur la longue durée, c'est la négociation avec les autres.
Avec les autres. Alors c'est ce que nous dit l'entourage direct, la famille, mais plus élargi aussi. On va y revenir dans un instant. Beaucoup d'auditeurs nous contactent au 3921, également sur Twitter. Julie, c'est votre cas. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Avec votre ami, je crois que vous habitez en région parisienne. Et,
exactement.
Et depuis le confinement, vous êtes toujours en région parisienne ou vous avez sauté le pas, vous?
Alors nous, on est toujours en région parisienne. Par contre, j'ai quitté mon bullshit job.
Ah, ça c'est dit.
Et pour ouvrir une épicerie vrac et zéro déchet à côté de chez moi.
Ah oui, c'est ça. Et depuis?
Alors, j'ai commencé à réfléchir pendant le confinement. Alors exactement avec les mêmes réflexions que ce que vous venez de dire, un sentiment de lassitude, de vouloir quelque chose de différent, de nouveau, d'avoir envie de créer quelque chose. Et donc avec ma voisine, avec qui j'étais confinée, qui elle est secrétaire médicale, on s'est dit, on y va. Va essayer de d'être aligné et de mettre des choses.
Et là, vous êtes aligné ou pas? Alors.
Ouais.
Parce que la conjoncture.
À partir du moment où on a pris cette décision, donc c'était pendant le confinement fin avril, on s'est dit bon, pourquoi pas, on a tâté le terrain, et finalement tout s'est enchaîné super vite. Il y avait une espèce d'alignement des planètes en fait, et tout avance. Ça fait 2 mois, et si tout va bien, on ouvrira début octobre. Ouais. Donc c'est très rapide, mais que je pense que c'est ce qu'on voulait depuis longtemps, mais on n'osait pas.
Ah, voilà. Il y en a qui ont osé. Merci beaucoup, Julie, de nous avoir contacté ce soir sur Europe 1. Alors c'est intéressant ce témoignage. On va y revenir dans un petit instant si vous le voulez bien, messieurs, parce qu'il y a sauter le pas, c'est-à-dire quitter, aller au vert, et puis il y a simplement faire le chemin à moitié, si j'ose dire, c'est changer de carrière. Tout cela, on en reparle avec vous deux. Merci, à tout de suite.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vos invités Nathalie Lévy. Ce soir, on donne la parole à ceux qui ont décidé de changer de vie après le confinement, après cette épidémie. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre au 3921 ou sur Twitter, hashtag Europe 1.
Oui, on est avec Jérémy Pelletier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès, et Philippe Gabillet, psychologue et social à l'ESCP, et qui a signé L'art de changer de vie en 5 leçons aux éditions Saint-Simon. Merci messieurs de m'accompagner depuis une vingtaine de minutes maintenant. Je vous donne la parole dans une seconde. On a entendu Julie tout à l'heure. Elle n'a pas changé de site, de ville, de région, mais elle a changé de métier. On va entendre Lucas également. Bonsoir Lucas.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir à tous.
Alors vous avez changé de zone, de région même, littéralement.
Alors, j'ai changé de région, effectivement, parce que je vis en région parisienne. Bon, encore, là, je suis en train de finaliser les derniers détails, mais je vais m'installer à Montpellier.
Ah, pas le même décor.
C'est pas le même décor, je vous l'accorde. je vais créer ma propre voie professionnelle.
Ah oui, donc vous, c'est
le double saut.
Le double saut, en effet. Et alors, vous changez de quel métier à quel univers professionnel?
Moi, je suis dans quelque chose qui va peut-être vous sembler très vague, parce que c'est un mot un peu fourre-tout, mais je travaille dans le consulting.
Ouais.
voilà, donc dans prestation de service. Et aujourd'hui, j'ai envie de me rendre utile. Je pense qu'il y a beaucoup de PME qui vont être en difficulté. Bien sûr, joindre l'utile à l'agréable aussi. Et bien sûr, il y a une partie financière, hein, je vais être rémunéré, mais j'ai envie d'aider des PME qui vont être en difficulté.
Ouais, donc ça,
j'utilisais mon expertise par rapport à ça.
Ah ouais. Eh ben, écoutez, vous l'avez fait. Et, enfin, en tout cas, vous êtes en dans le process là. Et merci de nous avoir appelés. Donc, c'est vraiment la crise qui a été le révélateur pour vous.
Oui, c'est accélérateur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient l'idée en tête. Qui avaient le projet. Mmh. Mais vous savez, par définition, je pense que l'humain est très fort pour repousser un projet. Et je pense que moi, personnellement, c'est peut-être la crainte de se dire j'aurais peut-être pas la chance deux fois de plus avoir peur. Voilà, parce que ça. Pour moi, la crise, c'est ça, c'est je me dis j'ai plus peur.
Bah voilà.
Concrètement,
merci beaucoup.
Je peux
en tout
y
cas.
Aller, j'ai plus rien à perdre.
Et ben, merci à vous, et puis le meilleur pour vous à Montpellier. Lucas, donc, qui nous a appelé ce soir au 3921, c'est édifiant, Jérémy Pelletier. Mmh. On passe de Saint-Ouen à Montpellier, donc on a quand même vraiment le changement de décor clair, net et précis. Là, on a aussi le changement de fonction, et il y a, c'est ce qu'on se disait en off, on va le dire aux auditeurs, il y a aussi effectivement dans cette envie d'ailleurs, cette envie de mieux, de plus de vert, de plus de soleil, de plus de cartes postales.
Absolument. Alors, bon, ce qui est très intéressant, c'est que ce qui rejoint les deux auditeurs que vous avez vus, c'est effectivement cet accélérateur qu'a joué le confinement dans le changement de vie professionnelle et pour finalement être de nouveau utile à la société, exactement comme vient de le dire
Lucas,
votre invité. Et ce qui est aussi très intéressant, et je crois qu'il faut vraiment l'avoir en tête dans les représentations très différentes des individus quand on va faire le débrief justement de ce confinement, c'est que pour une part finalement assez importante de la population française, ce confinement finalement s'est révélé comme des espèces de vacances préliminaires. Quand vous regardez juste une donnée, c'est la façon dont on a consommé pendant le confinement. Globalement, sur l'achat des produits de grande consommation, sur une période similaire l'année dernière, vous avez une augmentation de 30% des achats dans la grande consommation. Si vous regardez sur quelques territoires, le bassin d'Arcachon, vous êtes à plus de 70% d'achats dans la grande consommation de produits, je dirais, de première nécessité. Plus 60% dans des villes comme Cabourg, comme Deauville. Donc finalement, il y a quand même un aspect très estival, très vacancier pour une partie de la population. Et donc, c'est pour ça qu'il faut relativiser aussi sur est-ce que les gens vont passer le pas. Le confinement s'est quand même passé, en plus, dans un moment printanier, dans un moment vraiment
extrêmement beau.
Absolument.
C'est vrai, Philippe Gabillet, tout ça, ça participe.
Et la caractéristique du fait de sauter le pas, et c'est pas du tout négatif, mais sauter le pas, dans le fond, c'est un instant de folie. De folie peut-être raisonnable, mais c'est un instant de folie. On dit toujours, à quoi est-ce qu'on reconnaît les gens qui changent jamais rien ou qui entreprennent jamais rien, c'est qu'ils attendent d'être prêts. Ouais. Que ce soit Julie ou Lucas, les deux nous disent quelque part, je ne suis pas totalement prêt, mais de toute façon, il faut y aller, quoi. C'est maintenant ou jamais. Et pourquoi ? C'est qu'on se rend compte que dans les deux témoignages qu'on a eus, il y a ce qu'on appelle le double bonus. Mmh. C'est-à-dire que les deux se retiennent.
Ah oui.
Il y a bonus qualité de vie,
bien sûr,
il y a toujours avec le bonus sens. Ouais. Ce que je fais aura plus de sens en montant mon épicerie en étant consultant à Montpellier plutôt que... Donc on a les
attendez,
deux.
Si vous connaissez qui ferait le chemin inverse ? J'entends par là qui partirait de Montpellier vers Saint-Ouen ou qui partirait pour... Enfin, a priori, c'est quand même...
Oui, il y en a qui le feront, mais on sera sur des... Comment vous dire, sur des... C'est des trajectoires individuelles, très particulières.
Atypique,
Moi, j'ai eu des exemples comme ça de gens qui habitaient dans des endroits formidables. Il se trouve que bon, le père avait une entreprise qui était dans une banlieue pas terrible. Le gars hérite et puis il vient dans la banlieue pourrie et puis ça fera un super film pour de Châtillier.
Mais là, quand on sort de confinement et qu'on saute le pas, effectivement, c'est pour gagner plus. J'entends par là en qualité de vie, bien sûr. Et
il gagne plus dans sa vie.
Exactement. Fabien Bazin est avec nous, le maire de l'Orme dans le Nord. Bonsoir à vous, bienvenue.
Bonsoir, pas dans le Nord, dans le Morvan, dans la Nièvre.
Dans le Morvan, dans la Nièvre. Ben voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Bravo d'avoir rectifié. Alors, chez vous, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu comme ça une arrivée de citadins? Parce que c'est 1400 habitants chez vous, je crois.
Ouais, c'est ça, à peu près. Ah ben, clairement, bon, après, nous, on s'y prépare à l'accueil des nouveaux habitants, des nouveaux arrivants depuis déjà de nombreuses années, puisqu'il y a un mouvement quand même. L'exode urbain a succédé à l'exode rural, et comme vous le disiez, le confinement a été un accélérateur. Très concrètement, chez nous, on a installé deux personnes, un restaurateur qui a ouvert un restaurant là, il y a vendredi dernier, vous voyez, qui était là pendant le confinement et qui a fait le choix pendant la période du confinement. Une jeune femme totalement formidable qui veut vivre dans une yourte qui était un peu nomade jusqu'ici et qui s'est posée à l'Orme d'un seul coup. Et la dernière, pendant la fête de la musique dimanche, je rencontre un type qui me dit un Allemand qui a fait Sciences Po, enfin c'est le modèle job bullshit que vous évoquiez aussi tout à l'heure, et qui lui travaille à un projet de création d'une petite entreprise pour fabriquer des pantalons éthiques, vous voyez.
Ça
bouge quand même.
On a effectivement cette quête du bien-être et cette quête de, effectivement, l'envie de participer à cette société, à la relever, à bien faire. Et merci beaucoup Fabien Bazin d'avoir été avec nous ce soir sur Europe 1. Ça bouge donc et ça arrive clairement vers chez vous. On va se retrouver dans un instant, messieurs Jérémy Pelletier, Philippe Gabillet. J'avais envie quand même de vous interroger sur le côté des primes a posteriori, une fois qu'on y est et une fois que l'hiver va arriver, une fois que peut-être la situation ne sera pas exactement celle de la carte postale. Comment on gère? On s'en parle dans une minute.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 qui donne la parole jusqu'à 20h à ceux qui ont décidé de changer de vie après le confinement. Vous en faites partie? N'hésitez pas, venez nous rejoindre au 3921 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1. On lit vos témoignages, Nathalie Lévy.
Et oui, ça fait envie ces témoignages. Ils ont sauté le pas, ils ont quitté leur région, ils ont même parfois quitté leur métier et changé totalement d'univers. Jérémy Pelletier, Philippe Gavier, vous êtes encore avec nous quelques minutes. Et nos auditeurs aussi qui nous contactent, je voudrais justement vous faire réagir tous les deux dans un petit instant. À l'après, évidemment, il y a le moment d'excitation, on déménage, on s'installe, on découvre un nouvel environnement. Et puis dans quelques mois, qu'est-ce qui va se passer? Vous me gardez vos réponses pour un instant. Arnaud Bachelin, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Merci de nous avoir contactés sur Europe 1. Vous avez sauté le pas, précisément. Vous avez notamment accéléré la réalisation de votre projet de rénovation d'une abbaye, l'abbaye de Saint-Martin à Avallon, dans l'Yonne.
Exactement. Et véritablement, le Covid a été l'accélérateur du projet qui a été lancé il y a un an.
Mmh. Vous êtes parti tout seul?
Je suis parti seul. Projet un peu fou de restaurer une abbaye à moitié en ruine, 2000 mètres carrés. Je suis parisien aujourd'hui, mais je décide de retourner dans cette région qui m'a vu naître pour la dynamiser et puis mettre en place un projet professionnel. J'espère emmener plein de gens avec moi.
Ouais. Vous êtes arrivé sur place, sur zone maintenant, ça y est, ça a commencé?
Alors, je suis encore en intermittence entre la Bourgogne et Paris, puisque je suis commerçant à Paris aujourd'hui. D'accord. Et donc, je partage mon temps pour préparer justement la mise en place de ce projet, accélérer les travaux, et puis surtout préparer l'hiver.
Alors justement, vous allez vivre là-bas à plein temps. Vous vous êtes déjà envisagé sur place à moins 12, bon allez, peut-être moins 2, la grisaille en continu, moins de monde sur zone, etc. Vous vous projetez comment?
Alors moi, c'est ce qui m'intéresse aussi dans cette zone, c'est le côté à la fois presque désertique où tout est possible aujourd'hui. Et en même temps, j'ai la chance d'y avoir grandi dans cette région. Donc je connais les hivers et la rudeur qu'ils peuvent avoir. Et c'est aussi ça qui me plaît, ce côté un peu brutal du paysage, les grandes forêts, les grands lacs, le gel l'hiver. Avoir un beau soleil l'été, mais aussi pas mal de neige l'hiver.
Ah ouais. Bon, il faut avoir envie, effectivement. Et vous avez vraiment cette envie chevillée au corps. Donc, merci à vous, Arnaud, et bonne continuation. Alors, évidemment, je vous interroge là-dessus, Philippe Gabillet, parce que, quand même, c'est pas banal. De toute évidence, Arnaud, notre témoin, là, ce soir, il y a une préparation, ou en tout cas, il y a une vraie nature de sa part. Il y a quelque chose déjà d'intrinsèque. Mais quand on n'est pas préparé, qu'on saute le pas, et qu'il va falloir affronter ces hivers... à 17h, c'est presque le couvre-feu. Comment on vire pas la déprime?
D'abord, on peut jamais savoir à l'avance si on va y échapper ou pas. En revanche, Il y a deux choses. D'abord, la première idée, c'est pour ça que le projet de changement de vie n'est pas fondamentalement, sauf dans le cas qu'on nous a présenté là, un projet de solitaire. C'est-à-dire, dans le fond, pour affronter les épreuves, c'est mieux d'être plusieurs. Surtout si on s'est mis d'accord avant, que ça va pas être simple, quoi. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire à des gens que j'accompagne, de toute façon, face à ton projet de changement de vie, t'as que deux solutions. Ça peut bien se passer ou ça peut mal se passer. Mais dans tous les cas de figure, il va se passer quelque chose, ouais. Et c'est avec ce quelque chose que tu passeras à l'étape d'après. Donc, il y a un problème, effectivement, de maturation intérieure, mais comme je disais, il ne faut pas non plus croire qu'on aura pensé à tout. C'est important aussi de se dire, quelle que soit par ailleurs la difficulté qu'on va rencontrer, je sais pas, à partir d'un certain nombre de rituels relationnels, se donner le droit aussi, parce qu'on a un petit peu de sous quand même, ouais. on se refait une petite injection de vie urbaine au moment des fêtes de Noël pour aller se recharger. Mais on est obligé en fait d'inventer, c'est un processus créatif en fait. Y a tout ce à quoi on a pensé, ça représente 20% du truc, ouais. Puis il y a 80%. C'est de l'aléa. On l'a pas vu venir. Bon. Et la déception, elle peut venir effectivement de là. Puis vous avez aussi la déception qui viendra du fait que parfois, on change de problématique de vie en déménageant. Et puis quand on revient, on se rend compte qu'en fait, on a simplement emporté avec soi des problèmes.
Ah bah,
et simplement, les problèmes qu'on avait avant
en
ville, on les a embarqués à la campagne.
Ah oui, c'est voilà. Sûr. Bah oui, ils nous suivent les problèmes. Du coup, Jérémy Pelletier, la déprime, la grisaille, tout ça, on le sait, c'est un incontournable a priori, de toute façon, où qu'on aille. Du coup, on se prépare autrement, même s'il n'y a pas de garde-fou, même s'il n'y a pas toutes les possibilités pour y faire face. Ces Parisiens ou ces citadins qui sautent le pas, comment ils prévoient les choses à minima?
En tout cas, ce qui est compliqué, c'est la façon dont on peut se projeter dans la déprise économique qui va être la nôtre en septembre, octobre, novembre, et sur laquelle on a encore du mal justement à se projeter. Parce qu'effectivement, même si on fait des choix, même si on fait un projet là de délocalisation, etc., on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé. Ou en tout cas, on commence à le sentir un peu quand on voit le nombre de boîtes qui commencent à fermer et les taux de chômage, etc., sur lesquels on peut se projeter. Par ailleurs, je crois que malheureusement, la déprime peut avoir lieu, et notamment chez cette catégorie de la population, quand on va se rendre compte que peut-être le monde de demain n'est pas plus beau que celui qu'on avait hier. Et vous savez, c'est tout la thèse de Michel Houellebecq, évidemment, c'est le monde de demain sera pire que celui d'hier, peut-être avec moins de solidarité, alors qu'on a cru que le confinement allait entraîner de la solidarité, peut-être avec moins de belles valeurs, etc., alors qu'on a cru que justement le confinement allait entraîner tout un tas de valeurs. Bon, on verra, mais si justement ce monde-là n'est pas plus beau que celui d'hier, ça va entraîner effectivement une forme de déprime.
Merci beaucoup à tous les deux, messieurs. Merci vraiment pour votre accompagnement ce soir et vos éclairages. Jérémy Pelletier, Philippe Gabillet, et je rappelle, L'Art de changer de vie en 5 leçons aux éditions Saint-Simon. Merci beaucoup. Émilie Mazoyer prend le relais après 20h, c'est musique. Son invité ce soir, Francis Cabrel, pour son album Live avec le regretté Dick Rivers. Et puis le live, celui de Robbie Williams, c'était en Angleterre. En 2003. Ah là là, comme on a monté le son, là, en régie. Une petite faiblesse, hein. Cause I got too much light J'partage. Running through my veins Going two ways And I need to feel On fait du réel plaisir. Allez, Émilie, c'est à vous dans une seconde, juste après l'info, bien sûr. Nous, on se dit demain, 18h-20h, pour écouter ensemble Le Monde Changé. Merci de votre fidélité. Belle soirée. C'était Nathalie Lévy sur Europe 1. Europe 1.